c'est pas évident.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Principe Actif, en direct de l'Espace Jeune pour le quatrième numéro de Prise d'Anthème. Bonsoir JC. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde, un sujet qui va probablement vous intéresser. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre, on est à la Madeleine. N'hésitez pas à venir, on est en mode débat, pas de tabou. On parle, on dit tout ce qu'on pense. Et aujourd'hui, on parle des femmes, de la place de la femme contemporaine dans notre société.
Tout à fait, Dulcinea. Nous amener un peu plus loin dans nos débats pour pouvoir développer tous ces sujets. Nous avons plusieurs invités, si j'ai bien tout suivi.
Oui, tout à fait. Les invités que je vais vous présenter. Une équipe de choc. Trois drôles de dames. Donc, on va commencer avec Ramata Ba. Bonsoir.
Juste à côté de vous.
Bonsoir.
Donc voilà, Ramata qui travaille dans le milieu associatif.
C'est ça.
Coordonne des projets.
Voilà.
C'est bien ça. Ensuite, on a Drod Gless qui est prof de danse et qui travaille en tant qu'assistant de transport dans le milieu du poids lourd.
C'est ça. Si je me
trompe pas. Voilà. Et en troisième invité, nous avons Sarah Monta qui travaille à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité de la direction départementale de la cohésion sociale.
Bonsoir.
Un titre.
Oui, non, je disais un titre, peut-être qu'on expliquera au fur et à mesure, parce que je crois que ça dépend de la préfecture, si j'ai bien tout suivi.
C'est ça. Donc voilà, comme vous avez pu l'entendre, on a des professionnels autour de nous. On a également une équipe de choc avec nous, l'équipe de Prise d'Anthème. Bonsoir les garçons. Donc là, on a deux personnes pour l'instant. L'équipe va nous rejoindre au fur et à mesure de
c'est
l'émission.
Ça.
Donc on a Abdoulaye.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir Abdoulaye. Et on a Pierre également.
Bonsoir,
bonsoir Pierre.
Pourquoi lui il a un meilleur sourire que moi?
Je sais pas.
Ça commence bien, ça commence bien.
Revient.
Ça commence bien.
Vont nous rejoindre dans peu de temps Sarah, Bayal et Lionel.
Voilà, tout à fait. Et bien sûr, à la technique, on a le super, l'unique Deuz.
Vous êtes bien content que je sois là?
Ah, que je sois. Oh là là, putain, tu sais bien parler français.
Ça te va, toi, de vanner? Moi, je me comprends et c'est tout qu'est-ce qui m'intéresse.
Je vous ai compris.
Principe actif, 102.4 FM.
Alors nous avons tenté tout de même d'organiser cette émission, même si nous savons pertinemment que les interventions des uns et des autres viendront contrecarrer nos plans qui étaient pourtant si bien préparés. Dans cette émission, au-delà des invités qui donc nous éclaireront de leur expérience, de leur expertise durant toute cette émission, nous avons également trois micro-trottoirs, trois pastilles comme on dit dans le milieu, tournées avant-hier.
Avant-hier, c'est ça.
Sur la place Kennedy, c'est ça, si j'ai bien suivi, ou dans
c'est
ses alentours.
Bien ça, dans les alentours. On s'est promené à la Madeleine avec Adélaïde,
voilà.
Et Bayal.
Exactement. Et j'allais justement compléter. Dans l'équipe, il y avait Adélaïde avant-hier qui a rejoint notre équipe, mais qui ne pourra pas rester aujourd'hui sur l'émission. Et c'est bien dommage, Adélaïde, mais nous nous rattraperons la prochaine fois, bien entendu. Donc, ces trois micro-trottoirs qui rythmeront cette émission. Alors, cette émission, nous parlerons de l'identité de la femme, comment se fait une identité de femme, quel est le rôle du modèle social aussi qui est imposé, subi ou choisi en fonction. Nous parlerons également de la place de la femme. Est-elle assurée ou est-elle encore à défendre, notamment à travers tous les petits détails de la vie quotidienne. Nous avons eu l'occasion d'ailleurs de tester certaines choses, nous, en préparant cette émission. Et puis nous commencerons d'ici quelques secondes à échanger autour de fille à femme. Comment ça se passe de passer de fille à femme, et puis l'héritage culturel qui va avec, parce que nous l'entendrons dans les reportages tournés. Je suppose qu'il y a quelque chose autour de l'héritage culturel. Je propose qu'on écoute tout de suite le premier extrait enregistré mercredi dernier sur la place Kennedy de la Madeleine. On écoute ça tout de suite.
Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on devient une femme, pour vous?
Ouh là là, c'est compliqué comme question. Ah oui, oui, je ne me suis pas tellement posé la question. Peut-être avec le regard que la mère porte sur sa fille et qui lui laisse à penser qu'elle va suivre ses traces et qui essaye de l'élever comme à son image. Peut-être à ce moment-là, au moment de l'adolescence, peut-être.
Pour moi, c'est pareil, hein. Ça me semble logique. C'est au niveau de l'adolescence qu'on se construit pour devenir une femme. Oui.
partir de quand, de quel âge?
Bah, je sais pas, partir de quand?
Je sais pas, 14-15 ans.
14-15 ans.
Alors pour vous, c'est plus une notion d'âge alors?
Femme, bah non, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, je pense.
Comme?
Bah, je sais pas, la maturité, les connaissances, après, ses relations, son éducation, qui vont faire qu'elle devient plus ou moins vite une femme.
À partir de quand on devient une femme?
À partir de 16 ans. Hein.
À partir de 16 ans.
Ah oui, on devient 16 ans. Parce qu'ici, le blanc considère un enfant qu'elle est déjà, elle pas déjà la majorité, en fait, majeure.
Majeure?
Oui, à 16 ans.
À 16 ans.
À partir de 16 ans.
Mais nous, en Afrique, c'est pas 16 ans.
C'est pas 16 ans, c'est moins de 16 ans.
Moins de 16 ans.
À partir de quand, alors, on devient une femme pour
En Afrique, à partir de
13 ans.
10 ans. 10 ans. Non, 10 ans même.
10 ans.
10 ans. Normalement, ça dépend, c'est un pays.
Ouais. Et le changement, il est dû à quoi? C'est un changement physique? C'est un changement mental?
Non,
c'est... moi... un changement mental. Et l'éducation des parents, comment est-ce qu'on est... On a vécu, comment est-ce qu'on a grandi, et c'est ce qu'on a dans nos têtes. Moi, et les parents, les enfants ici, on essaie de les mettre, ça, c'est pas ça. Mais ils ont un changement grave ici par rapport à tout.
J'estime qu'à partir de 10 ans, pourquoi? Parce qu'un enfant voit déjà, je veux dire ça, grosse. Non, les règles. Donc une femme qui voit déjà, et un enfant qui voit déjà les règles, elle est déjà une femme. Peu importe son âge, donc elle peut déjà concevoir. Mais bon, comme on est dans un pays de droit, que ce soit en Afrique, que ce soit ici, à 10 ans, un enfant peut pas aller en mariage, faire des bébés. C'est encore c'est aussi un bébé. Mais nous, normalement, Africains, à partir de 10 ans, une fois un enfant voit des règles, c'est déjà une femme.
Qu'est-ce qui fait qu'on devient une femme? La maturité, l'acceptation de soi et des autres. Et s'accepter soi-même, c'est-à-dire le corps qui change tout, et là on est une femme, avec beaucoup d'amour, surtout. C'est ça une femme.
Quand on a ses règles.
Ouais. Si c'est sur la religion, si c'est sur la religion, c'est à partir de 15 ans. Voilà. Mais avec leurs normes actuelles, il faut avoir 18 ans pour être une femme.
Bah quand elle a ses règles. Je dirais, plutôt. Quand sa puberté commence.
Ok, bah c'est à partir de... Dès qu'elle est grande, quoi, on va dire, dès qu'elle se marie. Dès que... Ça dépend de l'éducation aussi. Je dirais ça. Hein.
Qu'est-ce qui fait qu'on devient une femme?
Bah pour ma part, la maturité et puis les enfants.
Bah ouais, les enfants.
Non mais à partir de quand une fille, devient une femme?
Une fille devient une femme, bah à partir du moment où, je sais pas moi, où qu'elle commence à être prête pour le mariage plutôt, tu vois.
Ah bah quand elle commence à prendre conscience qu'elle prend soin d'elle-même, qu'elle s'émancipe un petit peu, voilà ça je pense.
Bon, il y a plusieurs choses hein, à partir de plusieurs moments, par exemple on peut dire quand une fille elle a des enfants. Quand elle a des enfants, elle devient une femme. Quand elle acquiert la maturité aussi, on peut dire qu'elle est aussi une femme. Donc ça dépend des cas en fait. Hein.
Alors selon vous monsieur, à partir de quand une fille devient une femme?
À partir de quand? C'est bon. Wow. Je ne m'attendais pas à cette question-là, mais je sais pas moi, dans les coups de... Ça commence moi je dirais plus dans les coups de 18-19 ans, enfin plus 19-20 ans je dirais.
Donc c'était les passants de la passe Kennedy qui étaient au micro de Bayal, Dulcinea et Adélaïde. Pardon. Ça a été tourné mercredi dernier. Une première réaction peut-être bah là, autour de cette table, nos invités en particulier. Ramata
Bah il y a des réponses, il y a des...
Ça fonctionne.
Oui,
ça
d'accord.
Fonctionne très bien. Oui.
Donc il y a des réponses assez surprenantes. Je pense que les personnes déjà étaient surprises d'avoir cette question. Mais c'est intéressant parce que de la part des hommes et de la part des femmes, c'est pas du tout la même vision. Et non, c'était une question très pertinente, je pense, à poser déjà.
Alors, j'ai vu que certaines réponses vous avaient fait sourire, comme les premières femmes qui disaient qu'on devenait femme à 10 ans. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Je pense pas qu'on devient femme à 10 ans. On sait tous que c'est pas possible. Après, je pense que c'est une... là, pour le coup, c'est une question de culture, je pense, hein, puisque c'était une dame africaine qui parlait, c'est ça. Donc, je pense que ça vient de là. Mais je pense pas qu'on soit femme à 10 ordres, c'est même sûr. Je suis certaine qu'on n'est pas femme à 10 ordres. C'est beaucoup trop tôt.
Sarah Manta, ça vous évoque quelque chose, peut-être, j'imagine ?
Oui, alors bien sûr, il n'y a pas de définition légale. Moi, quand j'entends ça, bien sûr que ça fait sourire. Ça montre en fait la diversité des cultures qu'il y a en France, mais aussi la diversité des dominations qui pèsent sur des femmes avec des arguments d'origine culturelle, des arguments d'origine médicale, parce que pour répondre par la négative, selon moi, je dirais qu'on est femme ni quand on a ses règles, ni quand on a des enfants, ni quand on se marie. Et on peut retourner la question en disant à partir de quand est-ce qu'on devient un homme ? Mais non, c'est pas quand on a le droit de vote, c'est pas quand on se marie, quid des homosexuels. Donc en fait, finalement, c'est ni lié à la vie sexuelle, ni à la vie reproductive. Donc en fait, c'est tout le reste, je crois. Il y a peut-être une réponse qui est satisfaisante et qui n'est pas dans le code civil, c'est celle qui dit... c'est quand on se sent épanoui et qu'on est arrivé à maturité, qu'on est content de soi, qu'on est capable de donner de l'amour. Et... c'est la réponse la plus sympathique. Et encore, qu'est-ce que c'est que le concept de femme, en fait ? C'est ça la question. Parce que tout ça, ça ne va pas de soi du tout, ni d'homme.
C'était d'ailleurs ce qu'on a remarqué, c'est que c'était tout le monde trouvait la question difficile. Hein. On le remarque d'ailleurs. Il y a eu le montage qui a enlevé toutes les hésitations. Sinon, on aurait eu un montage extrêmement long. Mais chaque personne qui répondait aux questions prenait un certain temps de réflexion. On entend le jeune homme à la fin qui dit "Ouh là là, je m'attendais pas à celle-là." c'est flagrant. Tout le monde a été surpris par cette question finalement, qu'on pourrait penser quelque chose de naturel, dont personne ne se pose de questions finalement. Et quand on apporte la question, ça interpelle tout le monde. On a presque l'impression que personne ne s'était posé la question avant.
Ben non, parce qu'on ne se la pose pas, en fait. On ne se la pose pas quotidiennement, j'ai envie de dire, mais quand on nous la pose, c'est assez surprenant. Et y a, comme disait Sarah, il n'y a pas vraiment de réponse, en fait. Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Après, quand on a entendu dans les témoignages, c'est à partir de certains critères que certains disent qu'on peut devenir femme. Mais c'est vrai que c'est une question très, très vaste, en fait.
Moi, je dirais que... être une femme ou comme être un homme, c'est quelque chose qui est propre à soi-même. Et pas, il n'y a pas de critères, il n'y a nulle part où c'est écrit pour être un homme, il faut être comme ci, comme ça, avoir ci, ça, ça. Ou pour être une femme, il faut avoir ci, ça, ça. Je dirais qu'on devient une femme ou on devient un homme quand on le sent, quand on le ressent, quand on sait que... voilà, quand on le ressent, quoi. Je dirais que c'est plus un truc qu'on le ressent plutôt que qu'il se voit.
Il y a des invités qui aimeraient réagir, des membres du public ?
Bonsoir, je m'appelle Edith. Voilà, pour moi, pour ma part, pour en revenir à ce que disait Abdoulaye, pour moi, être une femme, c'est un état d'esprit. C'est comment on se sent soi-même. Parce qu'en fait, on peut dire que quand on devient femme, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment donné. C'est vraiment quand on, pour moi, on s'assume, on est responsable de soi-même. C'est arrivé à un certain âge, quoi. On est épanoui dans sa vie, on sent qu'on arrive à maturité. On montre aussi qu'on arrive à maturité parce que je pense qu'une personne ne peut pas définir elle-même qu'elle est femme. C'est souvent l'entourage qui reconnaît que la personne a grandi, que la personne est arrivée à un stade de sa vie où elle a passé l'adolescence et aujourd'hui elle n'est plus femme. Parce qu'on peut très bien avoir une fille de 25 ans ou de 26 ans qui est arrivée à terme de sa maturité, de son adolescence,
son développement physique,
et qu'on ne qualifie pas de femme parce que elle a pas encore, elle a pas encore ce truc, elle a pas encore la chose qui fait qu'on va définir que c'en est une, en fait. Et pour en revenir à ce que disait la dame à 10 ans, et je reprends aussi ce que disait Drode, on n'est pas femme à 10 ans. À 10 ans, c'est un peu trop tôt, on est beaucoup trop tôt. On n'est pas femme parce qu'on a ses règles, ça ne veut rien dire du tout. Parce qu'on peut les avoir, il y en a qui les ont très tôt. Hein. Et on voit même des filles qui ont leurs règles à 18 ans et qui ne sont pas femmes, ça ne veut rien dire. Et ce n'est pas quand on a des enfants aussi, parce qu'on peut avoir 15 ans et avoir des enfants. Et on est toujours considéré comme une adolescente.
Alors dans ce que disait, on fait référence à une des interventions de mamans, enfin j'imagine que c'était des mamans, je ne les ai pas vues en fait, j'ai juste fait le montage, mais j'imagine que c'était...
c'était bien des mamans, voilà, que c'était des mamas.
Des mamans, des mamans, oui des mamans, voilà, des femmes d'origine africaine, et on sentait qu'il y avait quand même une double culture, parce qu'elle disait, voilà, en Afrique, il y a 10 ans et tout, mais elle disait quand même... que, bon, 16 ans quand même, ça paraissait être quelque chose de plus entendable. Mais elles avaient ce double discours finalement. Elles étaient deux, ces dames. Et j'avais l'impression qu'elles disaient quelque chose, mais derrière, elles pensaient aussi autre chose. Comme s'il y avait cet aspect de double culture qu'elles ont d'ailleurs, se retrouver également dans la vie qu'elles posaient, dans le regard qu'elles posaient sur cette question-là. J'avais moi cette sensation qu'il y avait, à travers la double culture, finalement une double réponse.
Après, je dirais que être une femme, ça reste aussi un problème ça reste quelque chose de très culturel en fait, parce que d'un pays à un autre, ça change.
D'une religion c'est pas à une autre.
Voilà, d'une religion à un autre, une religion à une autre aussi, pareil. Donc ça reste quelque chose de quand même assimilé à la culture, à la religion et au pays d'où on vient, où on vit aussi. Ça peut être le problème d'avoir la double culture. Voilà, ça crée des divergences où on ne sait pas trop où aller, peut-être ce côté-là, non, ce côté-là. Donc ça reste quand même un problème, ça peut être un problème d'identité parce que certains peuvent ne pas se reconnaître justement du fait qu'ils ont une double culture. Et je suis une femme, je ne suis pas une femme, là ils disent oui, là ils disent non, voilà. Moi, c'est ce que je pense.
Oui, vous avez raison. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce que vous dites. C'est que quand on mène des actions autour des populations issues de l'immigration ici à Évreux et dans l'Eure, sur par exemple les notions d'excision et de mariage forcé, on voit que les personnes issues de l'immigration sont forcément prises en étau d'un point de vue culturel entre une certaine fidélité à leur pays d'origine et à leur culture d'origine pour ne pas se retrouver en porte-à-faux ou en trahison avec ceux de leur famille qui sont restés là-bas, et puis l'adhésion à la fois aux valeurs françaises, à un avenir peut-être meilleur, enfin, du point de vue excision et mariage forcé, c'est facile pour leurs enfants, et puis tout simplement rester en conformité avec la légalité, avec la loi française. Et ce qu'on observe, c'est qu'elles peuvent entendre certaines de ces mamas, entre guillemets, le discours qu'on porte, et objectivement dire oui, le mariage forcé, c'est-à-dire à 13, 15, jusqu'à 17 ans, ça n'a pas à avoir lieu, mais avoir du mal à porter ce discours dans leur propre famille. C'est-à-dire, faites ce que je dis, pas ce que je fais, dans ma famille. C'est plus facile d'aller le prêcher dans les autres communautés que d'être porte-parole auprès de ses propres pères, sur cette question d'être femme, par exemple.
Il y a un autre élément quand même sur la culture, et là on évoquait la double culture, il y a, ou en tout cas des différences de culture qui donnaient une différence d'opinion. On a quand même toute une série de jeunes hommes notamment qui témoignent, qui sont issus de la vue née, j'ai envie de vous dire, d'une culture commune tout de même. Là vous me contestez, enfin tout le cinéma, Adélaïde, qui ont été faire les reportages. En tout cas moi ça m'a paru être des jeunes hommes d'une culture sensiblement commune, même s'il y a des différences, enfin, chacun a sa culture propre, mais il me semblait qu'ils étaient d'une culture relativement proche, et par contre les avis étaient très différents tout de même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'histoire de la culture non plus, enfin, je ne sais pas où est le ressort, où est la ficelle de ces différences d'opinion aussi flagrantes, mais elle n'est pas forcément non plus toujours dans la réponse culturelle, quoi. Je sais pas, je me perds dans ce que je voulais vous dire, mais en tout cas, il y avait ce point-là que je souhaitais souligner.
Ouais, bah, je dirais, tu as raison, j'y sais. De tout temps, en fait, la médecine et la science ont apporté un point de vue pour gérer le comportement des populations, et notamment des minorités qui n'en sont pas tant que ça, c'est-à-dire des femmes. Donc, à travers les siècles, on a vu un discours totalement différent sur la capacité des femmes à être matures, responsables, autonomes, citoyennes majeures, en capacité civile. Et à chaque fois, c'était, selon qu'on soit au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, XXe siècle, rattaché à un discours sur le médical. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, quand on parle d'hystérie, on pense que c'est l'organe de l'utérus des femmes qui les rend incapables, qui prend le dessus sur leur cerveau. Donc c'est un exemple parmi d'autres pour montrer que je pense que ces garçons-là, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ne sont pas de double culture issue de l'immigration, mais ils ont quand même un point de vue qui est biaisé sur ce que c'est que devenir femme, avec un concept qui vient peut-être de la science. Par exemple, c'est avoir ses règles. Mais ça, c'est faux. Mais on est encore emprunt, nous, même les Français, de cet héritage-là. Voilà.
Abdoulaye, tu souhaitais intervenir? Non, pas forcément.
Non. On a tout dit.
Bah, il y a le... nous a rejoint. Bah voilà, n'hésite pas à t'installer avec nous. L'équipe arrive au fur et à mesure. On parlait d'héritage culturel, on parle également d'héritage médical, scientifique. Il y a d'autres héritages comme ça qui nous... Alors là, je m'adresse peut-être plus à Sarah Manta qui, à travers sa fonction, je rappelle, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité, à la direction départementale de la cohésion sociale. Je rappelle les titres pour ceux qui prennent en cours de route. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qui viennent orienter, alimenter notre réflexion et orienter notre regard sur la question de la femme ou de la féminité? D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait la même question, d'ailleurs, mais en tout cas, sur la question de la place de la femme, est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qui viennent soit flouter les cartes, soit donner des réponses?
Oui, alors en l'occurrence, en matière de droits des femmes, c'est plutôt souvent flouter les cartes. Donc l'héritage historique et légal dont nous sommes issus nous entraîne vers une vision toujours un petit peu inférieure des femmes, même si je dirais que les derniers actes pour rétablir hommes et femmes à égalité ont eu lieu dans les années 80 avec l'abolition de la notion d'autorité paternelle au profit de l'autorité parentale, ce qui est, quand on parle de personnes qui vivent ici de double culture, toujours un problème, parce que quand il faut traduire ça dans des langues où le concept d'autorité parentale n'existe pas, c'est toujours intéressant à faire comprendre.
J'aimerais bien qu'on le développe quand même deux secondes également, parce que ce sont des mots, et derrière des mots, il y a des choses, peut-être des concepts un peu plus compliqués que juste autorité patriarcale et oui. Parentale.
Bon, eh bien, pour tout un tas d'actes de la vie, inscrire son enfant à l'école, ouvrir un compte en banque, divorcer, décider d'avoir des soins médicaux, entreprendre une formation, s'inscrire à l'école, ouvrir un compte en banque. Dans certains pays, il faut montrer qui est son tuteur légal, qui a l'autorité paternelle sur soi-même, ce qui peut être le cas même pour des femmes majeures. Donc, il y a tout un tas de femmes qui viennent d'ailleurs ou qui sont ici depuis longtemps mais qui n'ont pas encore acquis certaines habitudes liées à la société française, qui croient encore devoir solliciter l'autorisation de leur mari sur tous ces sujets-là, y compris en matière de droit de gestion de la vie des enfants, etc. Donc, quand les associations qui s'occupent de ces personnes-là, ou qui accompagnent ces personnes-là plutôt, doivent expliquer au papa et à la maman, ou à la maman seule qui doit se retrouver après seule à l'expliquer au papa que l'autorité paternelle ici, ça n'existe pas, des fois même le mot manque pour le traduire dans la langue d'origine. Voilà, pour tous les actes que j'ai cités avant. Donc ça donne lieu à des situations cocasses. Et quand je parlais donc d'héritage légal et historique, on peut citer en 1804 le code civil napoléonien instauré qui rappelle dans les premiers articles que la femme est la propriété de l'homme comme l'arbre fruitier, celle du jardinier. Voilà d'où on vient. Tout ça pour aller donc jusque dans les années 80 avec l'abolition de l'autorité paternelle, l'autorisation de travailler sans exercer, de travailler sans demander autorisation de son mari, d'ouvrir un compte en banque, etc., de porter un pantalon. Donc, tout ça, c'est des choses en fin de compte assez récentes. Voilà de quoi nous sommes issus.
Je me permets je soulèverai deux points, mais un par un. On a pas mal évoqué, et notamment, c'est vrai qu'à travers les témoignages tout à l'heure des mamas, comme on disait, ça a soulevé pas mal de réactions, mais on a soulevé pas mal cette notion de culture liée à une origine géographique et une migration. Mais n'a-t-on pas les mêmes questionnements, les mêmes problématiques éventuellement avec finalement des personnes qui n'ont pas bougé depuis des générations? Est-ce que c'est lié? Est-ce qu'on est très clairement en train de se dire que c'est lié à de la culture et donc lié à une migration plus ou moins récente, hein, d'ailleurs, un héritage culturel mixé? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, on peut dire que ça concerne tout le monde quand même, cette question d'héritage culturel sur un droit des femmes peut-être encore à retravailler? Ramata, peut-être?
Oui, moi je pense que ça peut concerner tout le monde, des personnes issues de l'immigration ou pas. Et je pense que, parce qu'on a accentué un petit peu depuis tout à l'heure sur les personnes...
C'est pour ça que je voulais revenir dessus, oui.
Sur les personnes issues de l'immigration, je pense que c'est d'autant plus difficile parce que, comme disait tout à l'heure Sarah, il y a des choses du pays,
j'ai envie de dire. Et maintenant, aujourd'hui, ils sont en France. Et du coup, il y a des choses aussi par rapport à la culture française qu'elles doivent aussi adopter, s'identifier. Et puis, les enfants qui sont nés en France et qui sont des parents issus de l'immigration. Donc, du coup, je pense que c'est des situations assez complexes. Déjà pour discuter, pour en parler, pour aborder le sujet et pour faire comprendre aussi aux parents qu'aujourd'hui en France ça peut se passer comme ça parce que nous depuis tout petit on a, au niveau des cours, au niveau des centres auxquels on peut y adhérer, qu'on peut fréquenter, on nous parle de tout ça. Et du coup de faire comprendre ça aux parents c'est un peu plus compliqué. Donc je pense qu'ils sont dans une situation assez complexe et faire comprendre tout ça des fois c'est pas simple.
Je pense que c'est un problème aussi culturel parce que quand nous, par exemple, je vais dire nous parce que c'est la réalité, on a des parents qui sont nés à l'étranger, qui sont arrivés en France, donc essaient d'intégrer la culture française. Nous, on a ce problème-là parce que quand on entend dire chez nous « tu serais au bled, tu serais déjà marié avec des enfants », on nous le dit, hein, tu serais déjà marié avec 4 enfants, tu serais t'aurais déjà ton foyer, tu aurais un mari, tu serais responsable de tes enfants, responsable de toi-même. Et que quand on se voit ici aujourd'hui, moi j'ai 26 ans, je ne suis toujours pas mariée, pas d'enfants, c'est différent, mais vraiment différent. Il y a une grande différence entre les deux. Et en fait, on a du mal à se positionner. Donc, on ne sait pas trop quoi prendre et on n'arrive pas à assimiler le fait de dire est-ce qu'on est femme ou est-ce qu'on ne l'est pas et à quel moment on l'est. C'est pour ça que, comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de moment donné pour définir ça. Et nous, ayant cette double culture, venant une culture africaine et culture européenne, je vais dire, il y a un manque. Enfin, on n'arrive pas, je pense, à se situer.
Sur cette notion de culture, j'aimerais bien interpeller Drod. Drod, vous êtes assistante en transport poids lourd. Là, on est également sur une question de culture. Alors, pour le coup, de culture de métier. Est-ce que vous retrouvez dans ce qu'on dit là par rapport à des cultures, pour le coup, géographiques, par rapport aussi à cette culture de métier ? Parce que le poids lourd, clairement, c'est une culture d'homme.
Oui, clairement.
Très clairement. Hein,
c'est, Alors là, on est en plein dedans.
J'imagine que vous devez en entendre parler régulièrement de cette culture masculine.
Ah oui, je l'entends, je la vis.
Mais là aussi, on est sur une histoire de culture, enfin professionnelle, j'entends. Sur une histoire de culture, d'héritage aussi culturel, professionnel, non ?
Ah bah oui, totalement. Enfin, dans le milieu dans lequel je travaille, par exemple, enfin c'est un milieu, c'est très brutal. Ça n'a rien à voir. Donc oui, effectivement, les rapports avec les hommes sont c'est très direct, on va dire. Et puis là, oui, donc la place de la femme. Après, enfin, je pense que dans un milieu comme ça, oui, la femme doit s'imposer.
Ça veut dire qu'il faut y aller.
Faut parler le même langage que. Faut parler le même langage que. Ouais. Sans faire comme eux, mais il faut parler le même langage, ouais. Ouais, je pense que ouais, la femme là, doit quand même prendre sa place. Voilà.
Je voulais revenir. Excusez-moi, je suis bavard, hein, mais je voulais revenir juste sur une idée moi qui m'a interpellé dans ce que vous disiez, Edith. C'est la notion de nos parents ont essayé d'intégrer une culture. Ça fait partie des mots moi, qui me gênent à titre personnel, où j'ai pas la sensation qu'on, sous prétexte qu'on aurait traversé le monde pour s'installer quelque part, on intègre une culture, mais on l'appréhende, on la complète de sa propre culture, on s'enrichit. Voilà, je voulais juste revenir sur cette notion-là que je trouvais. Je ne sais pas s'il y avait une idée derrière tout ça, hein, mais en tout cas, vous disiez voilà, nos parents ont, comme vous disiez, essayé d'intégrer la culture. Et pour moi, j'aurais plus envie de dire, ils sont enrichis d'une autre culture et pas. On n'abandonne pas une culture pour en prendre une autre. Oui. On enrichit sa propre culture. Enfin, en tout cas, c'est ma vision de la chose. Voilà. Je voulais juste revenir là-dessus.
Oui, c'est un enrichissement, mais je veux dire, en fait, dans ce que j'ai voulu dire, c'est que nos parents, sachant qu'ils nous ont élevés en France et qu'ils savent qu'on va avoir cette double culture, ils ont eu besoin d'intégrer la culture française à la leur pour pouvoir nous élever. Parce qu'ils. C'est sûr qu'il y allait avoir conflit d'intérêts. On n'est pas du tout élevé pareil en Afrique qu'en France. Après, ça dépend de la mentalité des parents. Ça dépend aussi de leur capacité à s'adapter. Mais je pense que nos parents ont dû s'adapter à la culture française pour pouvoir nous élever au mieux et nous faire comprendre qu'il y a des différences comme il y a des similitudes. Voilà.
Abdoulaye.
Non, je voulais dire en fait quelque chose, mais qui n'a strictement rien à voir avec...
Mais on peut sauter du coq à l'âne si voilà, faisons comme nous le souhaitons.
Faut être honnête, dans le sens où on reconnaît une fille d'une femme. Dans le sens où, par exemple, deux filles qui ont le même âge, elles peuvent avoir 25 ans les deux, par rapport à leur comportement, on va tout de suite dire elle fait plus femme que elle. Ça, il faut le dire clairement, même s'il n'y a pas de critères écrits ou autres, ça se voit, ça se sent, on le sait. C'est... Voilà, comme tout à l'heure, on disait tout à l'heure, Edith, que, ouais, tu t'habilles bien, etc., tu t'habilles en femme, tout. Là, on peut dire que, contrairement à une fille qu'on va prendre dehors, effectivement, oui, là, t'es femme. Il faut le dire clairement, par rapport à la façon de s'habiller, parler, etc., etc., on différencie d'une fille d'une femme. Comme on différencie un homme d'un garçon.
Complètement. Avant de partir en pause musicale, je voulais juste rajouter un truc, peut-être vous rebondirez dessus, mais après la pause musicale, s'il vous plaît, j'ai envie de dire peut-être que ça ne se passe pas du jour au lendemain, on ne se couche pas un soir fille, on se lève un lendemain matin femme, et peut-être que ça se passe sur une durée qui peut aller sur plusieurs années en fonction de, du rythme de chacun. Oui, bon, alors Ramatan, on va réagir, allez.
Par rapport à ce que tu viens de dire, Abdoulaye, c'est pas faux, mais... Des fois, dans certaines administrations, le style vestimentaire change beaucoup. On peut très bien être femme dans notre tête, mais nous, on nous catalogue en fait de jeunes filles. Donc du coup, on peut très bien, bon, je sais pas, c'est un mardi matin, on va dans une administration, pardon, on a décidé d'y aller en basket et en jean. Et du coup, on va nous dire bonjour jeune fille ou bonjour. Alors que si le lendemain j'y vais un peu plus habillée, bah là, on va me dire bonjour madame. Et du coup, ça, moi personnellement, c'est très dérangeant. Pourquoi ? Parce que c'est pas un look, c'est pas un style vestimentaire qui va faire que je suis une jeune fille ou une jeune femme. Après, peut-être c'est que d'un point de vue d'un homme, c'est différent.
Ce que tu dis, c'est totalement vrai. Mais après, dans la tête de tout le monde, honnêtement, faut le dire clairement.
Oui,
après, sur le tas, quelqu'un qui t'arrive, même toi, si t'es à la place de la personne qui est à l'accueil, tu vois quelqu'un qui est habillé en basket ou autre, voilà.
Oui, c'est justement ça le problème.
Voilà, c'est le problème, c'est quelque chose qui
en tout le monde.
C'est l'être humain qui est comme ça.
Non, je suis d'accord.
C'est l'être humain qui est comme ça.
Bah, je propose qu'on en parle juste après la pause musicale.
Bien sûr, Dulcinea.
Deux, tu peux nous envoyer un bon son, s'il te plaît.
Come
Alors, vous avez reconnu cette voix angélique, c'était Michael Jackson, My Girl.
T'es pas en grâce verte, toi? Ça me semble bien que c'était toi, avec ton vieil accent de chanteur de rap, hip-hop. Et cette manie que tu as de cracher partout comme en lara. C'est excessivement énervant.
Le mix des cultures, principe actif, 102.4 FM.
Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Prise d'Anthème, quatrième volet de cette émission de débat, d'échange que nous réalisons pour la quatrième édition à l'Espace Jeune de la Madeleine, en live, en public et en direct. D'ailleurs, si vous nous écoutez, vous pouvez venir nous rejoindre, bien entendu. Le thème du jour, c'est la place de la femme contemporaine. Et puis, pour débattre avec les jeunes qui sont dans cet Espace Jeune, nous avons trois invités de marque, comme nous pourrions dire. Nous avons Ramataba, qui est coordinatrice de projets associatifs. Voilà. Nous avons Drod Gless, professeur de danse, mais également assistante en transport poids lourd. Et puis Sarah Manta, qui est déléguée aux droits des femmes et à l'égalité à la direction départementale de la cohésion sociale. Voilà, c'est un service de la préfecture, une délégation de la préfecture. Justement, Sarah, vous êtes venue, vous n'êtes pas venue les mains vides comme on dit, vous étiez invitée, alors des fois il y a des invités viennent avec des fleurs, une bouteille ou des chocolats, vous, vous êtes venue avec votre café perso, ça on l'aura bien remarqué, mais vous n'êtes pas venue, qu'avec ça, vous avez amené des choses à partager je crois.
Oui, les services de l'État, donc la DDCS, la Délégation aux droits des femmes, le pôle jeunesse, sport et vie associative, le CDOS, Comité départemental olympique sportif, et le CIDFF, Centre d'information pour les droits des femmes et des familles, organise avec la LM Basket la semaine prochaine, mardi, un match un petit peu spécialement engagé contre le sexisme, l'homophobie, contre toute forme de violence et de discrimination dans le sport. Donc à ce titre, nous souhaitions que Principe Actif puisse offrir quelques places aux auditeurs qui le veulent sur Facebook. Donc le match, c'est Évreux-Boulazac à 20h à la salle Omnisport d'Évreux, mardi prochain.
Voilà, notre ami se prépare une petite publication, c'est ça, sur les réseaux sociaux. Mmh. Et puis, avec combien de places vous nous dealez là?
Allez, 4, 6, je ne sais pas. 4, 6, en général, on y va par deux.
Les premiers, les premiers qui réclameront des places, les auront, bien entendu.
Vous aurez des surprises hein, pendant cette soirée, parce qu'il y aura les filles basketteuses niveau 3. Toi, de Netreville, qui feront une démo avec les garçons. Et les garçons sont bien sûr les joueurs très engagés sur ces questions-là. Donc il y aura toutes sortes de petites manifestations au cours de la soirée.
Eh bien, ça collait pile poil avec le thème. Merci, Sarah. Avant de passer au découpage suivant, parce qu'on a quand même un peu préparé cette émission et on a découpé, Bayal avait une question. Je propose que tu nous la livres, cette question, et puis nous verrons qui s'en empare.
Oui, j'avais une question pour Sarah, du premier sujet par rapport à l'héritage culturel. Je voudrais savoir si vous avez déjà rencontré des filles qui n'arrivent pas à avoir l'image d'une femme vis-à-vis de leurs parents. Si oui, ces difficultés sont dues à quoi ?
Oui, alors je dirais que je pense qu'on a tous rencontré des personnes comme ça et c'est justement dû au poids des stéréotypes et de la culture. Et quand on dit culture, on ne parle pas toujours de celle des autres à l'étranger, mais aussi de la culture de France, hein, parce que sinon on a un point de vue, comme on dit, occidentalo-centré. L'idée, c'est en fait que souvent on voit des filles qui n'ont ou pas d'enfants, ou qui n'ont pas une situation maritale classique, ou qui sont bisexuelles ou homosexuelles. Je dirais, pour balayer la plupart des cas, ces trois cas de figure font d'elles qu'elles ne sont pas dans une situation stéréotypée de femmes classiques. Et pour autant, pour moi, elles ont un statut de femme. À supposer qu'on arrive à définir ce que c'est que ce concept. C'est-à-dire qu'on peut avoir 45 ans, être lesbienne, avoir 45 ans, être en couple hétérosexuel, mais ne pas avoir d'enfant, ne pas avoir enfanté par les voies naturelles, mais quand même avoir de l'amour à revendre, avoir adopté, mais ne pas forcément être belle-mère. Il y a tout un tas de possibilités qui font qu'on peut être femme. et se définir comme telle, c'est-à-dire mature, responsable, en capacité civile, en dehors des fonctions maternelles. Je crois que le nœud de la guerre, en fait, c'est de toujours rattacher la mère, la femme avant tout, à son rôle de mère, alors qu'une femme n'existe pas que par son ventre et son utérus, tout simplement. Et encore moins par son orientation sexuelle, c'est-à-dire que bien sûr que les lesbiennes sont des femmes. Voilà.
Je propose que nous écoutions un deuxième montage réalisé par l'équipe de Micro-Trottoir. Dulcinea, j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus de la deuxième question. Est-ce que tu peux nous faire le lancement, s'il te plaît?
Alors la deuxième question, alors si je me souviens bien aussi, il me semble que c'était est-ce que les femmes ont des qualités spécifiques?
Ah oui, c'était une question piège sur les qualités spécifiques de la femme.
Je propose d'écouter et d'écouter les réponses scandaleuses.
Deuxième question, y a-t-il des qualités spécifiques de la femme?
Bien sûr, la femme est tolérante, la femme est généreuse, elle est courageuse. Quand elle met un enfant au monde, vous les hommes, vous ne pouvez pas dire le contraire. Donc voilà, la femme a beaucoup de qualités comparée à l'homme.
Réponds bien.
Elle est gentille.
Gentillesse, respect.
Ouais, tout ça. Elle a de la force.
Ben oui, parce qu'on met au monde déjà. Hein. L'homme ne met pas au monde. Ça, c'est obligé. De deux, on a des difficultés après avoir mis au monde. On souffre pour élever l'enfant. On fait tout ce qui concerne l'enfant et le quotidien. Voilà, par rapport à ce que l'homme ne peut pas faire au quotidien. Il ne pourra même pas faire d'ailleurs. Donc tout se pose sur la tête de la maman. Éducation, tout, même la maison, le ménage, tout, manger, tout, c'est la femme. Apprendre de tout. Même l'éducation des enfants, hein, parce qu'on est né africain, on est venu dans le territoire français, mais bon, on reste africain, on a nos mœurs. Et bon, voilà.
Alors là, je vais répondre par une boutade, même deux boutades. Mes filles ont l'habitude de dire « Aucune affaire n'est perdue tant que maman ne l'a pas cherchée ». Donc ça, les femmes trouvent beaucoup mieux que les hommes. Voilà une des qualités des femmes. C'est une boutade. Hein, c'est... Et la deuxième boutade, c'est que les femmes savent faire deux ou trois choses en même temps, alors qu'un homme doit être concentré sur une tâche. Et si on lui demande une deuxième chose, alors là, ça ne va plus du tout.
Moi, c'est pareil. Hein. A toujours besoin d'une femme.
Les tâches ménagères.
Oui, il y a des qualités. Bon, parce qu'une femme doit être femme à la maison. Et ensuite, bon, gérer le quotidien de la maison. Parce que si on dit qu'il y a une famille, il y a une femme. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de famille.
Spécifique à la femme?
Oui.
Qualité? Non, pas spécifique.
Dans le cliché ou...
Moi, je te demande ton avis.
Mon avis? Est-ce qu'une femme a plus que l'homme? Elle mûrit plus vite que le garçon, qu'un homme, je trouve. Et puis, elle a quoi d'autre comme qualité, la femme? Elle est plus ordonnée, on va dire. Elle est plus droite.
Ouais, je dirais la cuisine. Le ménage.
La patience.
Ah, la patience, et on est vraiment courageuse.
Voilà quoi, oui.
L'écoute. L'obéissance.
Ben, c'est une femme qui, je sais pas, qui travaille, qui est indépendante, et voilà quoi, qui a tout quoi, qui est normal, je sais pas.
Non, je dirais qu'il y en a deux, la patience et l'amour.
Ah, c'est beau. Si on va dresser un portrait de la femme d'aujourd'hui, ce serait
quoi? D'aujourd'hui, une femme sera une femme dans tous les temps en fait, tant qu'elle peut faire ce qu'elle veut faire. Tous les siècles qui passeront, qui sont passés, ça sera toujours pareil en fait.
À son têtu. Mais ça peut devenir une qualité après, hein. Ça peut se transformer en qualité. Têtu, c'est une mauvaise qualité, c'est un défaut, et ça peut être une qualité en même temps aussi.
la femme, par exemple, à la maison, par exemple, le ménage, hein. La femme, elle s'occupe de tout, elle fait tout, elle s'occupe de la maison et tout. Alors que l'homme, il fait pas ça. L'homme, il est tout le temps au travail et tout. Alors que la femme, elle va s'occuper des enfants, les déposer à l'école, rentrer, faire à manger. Donc, ce sont des choses que les hommes, ils font pas souvent, c'est rare. C'est des choses qu'on retrouve rarement chez les hommes, quoi. 22
ans, en fait. Qualité spécifique. Attends.
J'étais pas prêt.
Une qualité qu'on retrouve chez la femme, par exemple, pas chez l'homme.
La patience. Je pense que les femmes sont un peu plus patientes que les hommes. Nous, on va dire qu'on a besoin des femmes quand même pour être cadrées, pour être recentrées à certains moments. On a besoin des femmes. C'est très important.
Voilà, c'est issu. Moi, je vois. Là, il va y avoir de la réaction,
là,
forcément.
Ça va être la guerre.
Je crois que nous avons un des sujets les plus scandaleux.
Si on doit conclure un peu ce petit micro-trottoir, on va dire que la femme, c'est le ménage, à manger et c'est tout. Quoi. Obéissante, la patience. Il y a aussi l'amour et.
Il n'y a pas eu que ça quand même. Des réactions, alors, là, j'imagine, de nos invités, Drod, Ramata, Sarah, une réaction. Voilà. C'est assez choquant quand même. Il y a certains propos.
Il y a des propos bien dégradants quand même. Associer la femme au ménage, moi personnellement, pour ma part, le ménage, je suis pas experte. Hein. Donc,
Puis je crois qu'il n'y a pas de gêne, hein. Scientifiquement, tu allais en parler de scientifiquement.
Je suis désordonnée, je fais le ménage parce que je dois le faire, je n'aime absolument pas faire ça. C'est une mauvaise association que d'associer la femme à la cuisine et au ménage et tout ça. Je pense que la femme est capable de bien d'autres choses.
Cependant, les femmes elles-mêmes, quand elles répondaient aussi à ces clichés, hein, pas mal tout de même. Enfin, je le soulignais. Les pires clichés, forcément, des hommes, et pour le coup, plutôt des jeunes. Enfin, à la voix, plus jeunes quand même. Les propos les moins ouverts, je trouve que c'était plutôt des jeunes et des hommes, effectivement. Mais les femmes rentraient aussi dans ces clichés. Hein. J'ai eu cette sensation. Hein.
Et on a l'impression qu'il y a énormément de choses qui reposent sur les épaules de la femme, en fait. Tout ce qui est associé au domicile, aux enfants, à l'éducation, tout ça, c'est de la part de la femme, en fait. Et, je pense que si, à l'inverse, on aurait posé la question et les hommes, je ne sais pas si on aurait trouvé autre chose, en fait. Parce que tout, on a l'impression... Non, c'est pas...
On ne sert à rien, en gros.
Je ne voulais pas dire ça. Mais il y a énormément de choses qui sont associées pour la femme. Donc, c'est assez étonnant, en fait. C'est assez étonnant.
Je vais laisser Edith parler. Ensuite, moi, je vais donner ma réponse, là. Attends, prépare-toi.
Bon, en fait, selon les réponses qu'on a eues, on a l'impression qu'en fait, la femme, quand elle sort du ventre de sa mère, elle est emballée. En fait, on a l'impression qu'on est avec un balai, et je pense que c'est pas que ça. Hein. On n'est pas des machines pour faire le ménage, s'occuper des enfants. Certes, comme il disait, la patience c'est une qualité. Le ménage aussi, je pense que c'est une qualité parce qu'il y en a qui l'ont pas. La tolérance aussi. Mais on n'est pas avec un balai. On sort pas du ventre de sa mère avec un balai parce qu'on est femme. Hein. Et les hommes ils sortent avec autre chose, non?
C'est la faute à Cendrillon, ça. Faut le dire, c'est Walt Disney, ils vous ont un peu... Faut le dire, hein.
Peut-être qu'il y a des ficelles, effectivement, oui, dans les modèles, justement, renvoyés, notamment à travers la télé et à travers le marketing, également, et tous ces éléments-là, j'imagine.
À travers la télé, à travers les jouets, quand on voit que, par exemple, quand on est petite, on nous donne tout de suite la petite dinette, l'aspirateur. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, je rêvais d'avoir l'aspirateur, le jouet, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est ridicule, mais j'en rêvais, je vous jure que j'en rêvais, je regardais le catalogue, le petit aspirateur, ma copine avait l'aspirateur aussi, alors que c'est totalement ridicule. On pourrait tout à fait donner à des enfants, hein, des petites filles, des voitures. Pourquoi pas avoir des voitures téléguidées aussi? Voilà, ça cause des catalogues et c'est la société qui nous met en fait dans des cases. Et voilà, il n'y a pas que l'éducation, il y a la société aussi qui fait qu'on est tout de suite mise dans des cases, on est tout de suite mise dans une étiquette. Les femmes, c'est ménage, on s'occupe des bébés, c'est tout rose.
Et puis je pense qu'ils n'ont pas avancé avec le temps parce qu'il y a eu du changement quand même. Avec toutes ces années qui sont passées, il y a des choses qui se sont mises en place pour que, il y ait cette égalité qu'on a presque maintenant, je dirais, parce que j'ai l'impression que c'est toujours pas le cas quand on entend les gens parler. Hein. Mais
Je pense que, excuse-moi, je t'ai coupé. Je pense qu'il y en a, beaucoup qui auraient dû faire les rayons de jouets à Noël parce que maintenant on se rend bien compte que sur les petits trucs de dinette ou les kits manches à balai et tout. Il y a beaucoup de petits garçons maintenant. Hein. Donc, Abdoulaye, bon...
Non, mais dit, c'est moi, pas pour toi, mais parce que... Bon, c'est tout.
Voilà, tout à l'heure, tu nous faisais
des blagues,
mais maintenant, on voit de plus en plus de petits garçons sur les kits de jouets où il y en a des dinettes, où on a des machines à laver ou autre. Donc, je pense que la société essaye quand même un peu d'évoluer, mais il y en a qui restent bloqués dans le passé.
C'est quand même triste d'entendre certaines choses quand on voit le combat qui est mené par certaines femmes, par les femmes.
Sur le fait des modèles, notamment des jouets, là, Sarmenta, vous venez de me glisser les 55 idées cadeaux qui nous montrent des filles et des femmes modernes et inspirantes donc pour un Noël sans stéréotypes. Ça, c'est une brochure éditée par Business for Professional, c'est ça? Oui. Je suis très nul en anglais, donc ma prononciation est forcément mauvaise. Mais donc c'est une association qui édite voilà, un catalogue qui évite les stéréotypes, c'est ça?
Oui, exactement. Alors, on pourrait copier le lien de la page Facebook de BPW France, donc Business for Professional Women France, sur la page de Principe Actif. Là, c'est une sélection de cadeaux de Noël plutôt pour des grands, mais le même catalogue a été fait pour des plus petits. Et ce que je voulais dire, c'est que vous avez tout à fait raison, Ramata, en disant qu'en fait, on a l'impression, avec les commentaires, que tout ce qui rattache les femmes, tout ce à quoi sont rattachées les femmes, c'est le travail domestique. À rebours de ce que vous dites, en fait, il y a un peu une illusion que la société a vraiment progressé, parce que oui, il y a des nouveaux hommes, et oui, il y a des nouveaux pères, et on en voit avec des poussettes, on en voit faire des courses, on en voit avec des tabliers, etc. Mais c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, parce que ce que les dernières stats de l'INSEE, donc l'Institut National de Sondage, nous disent, c'est bien qu'il y a encore aujourd'hui 18 heures de décalage de tâches domestiques par semaine entre hommes et femmes. Alors, vous allez dire que vous faites baisser tous la moyenne, n'est-ce pas? Mais alors, je ne sais pas où sont les autres, les affreux. La réalité, c'est ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, le nerf sur cette question-là se situe bien dans le travail domestique invisible et gratuit fait par les femmes. Parce qu'en fait, c'est 18 heures qu'elles passent en plus par rapport à leur conjoint ou frère, etc., à faire ces choses-là. Ce sont 18 heures qu'eux passent à plus travailler, donc avoir plus de rémunération, s'impliquer dans le sport, s'impliquer dans la culture, s'impliquer dans la vie associative, s'impliquer dans la vie politique ou tout simplement se détendre et créer du réseau social, que ce soit au bar, dans la rue, enfin à copiner, sur un banc, bref. Donc autant de choses qui font qu'une vie est riche, qu'on a de l'autonomie, qu'on peut s'en sortir. Ce qui fait que une femme à 40 ans, à 50 ans, ou une femme, même par exemple si elle veut, lorsqu'elle divorce, va tout d'un coup se rendre compte qu'elle a investi un temps énorme dans la vie de famille, ce qui va bien souvent la rendre très démunie au moment de se retourner et de voir quelles sont ses ressources, quels sont ses réseaux. Donc il y a vraiment un phénomène, une illusion de l'égalité. Et excusez-moi de monopoliser la parole, si je peux faire encore une petite précision, je voudrais dire que toutes les remarques qu'on a entendues en fait font référence à ce qu'on pourrait appeler des stéréotypes donc sexiste, basé sur le genre. Et en fait, le sexisme est au sexe ce que le racisme est à la race. Et ce que je propose souvent comme exercice, en fait, c'est de transposer toutes les réflexions qu'on croit être de l'ordre du naturel, du bon sens, de la culture, du lieu commun, de l'inné, rapportées aux femmes, de les rapporter à la race, entre guillemets, ou à la couleur. Et si je disais... les Noirs sont quand même naturellement plus doués pour faire du jazz, ou résister à la chaleur, ou faire de l'athlétisme. Eh bien, on se dirait, non, là, on est sur des propos vraiment sexistes qui datent fin du 19e siècle. On sait très bien qu'en fait, peut-être qu'à un moment, les Noirs ont été plus doués pour ça, je mets vraiment beaucoup de guillemets, pas parce que c'était dans les gènes, mais parce que c'était le produit d'une histoire sociale qui fait que sur une génération ou sur 10 générations, bah, à force de faire peut-être tel genre de musique uniquement, ou de se déplacer sans semelle à tel endroit, de telle manière, comme ça a été prouvé en Éthiopie, bah oui, on développe des capacités. Maintenant, on sait en fait que c'est pas du tout lié aux gènes, lié à la nature, qu'on ne naît pas comme ça, mais que ça se développe avec la société. Mais c'est exactement la même chose pour les questions hommes-femmes. Il n'y a aucune donnée qui soit innée, naturelle, c'est-à-dire à la naissance, dans les gènes. Rien n'est inscrit dans le patrimoine et tout se développe, je dirais, malheureusement avec la société. Et la société, en fait, en remet une couche en revalorisant ou pas certains métiers, selon qu'ils s'attribuent plutôt aux hommes ou plutôt aux femmes. C'est-à-dire que les compétences dans les métiers attribués aux femmes vont être souvent sous-rémunérées, sous-qualifiées, de la même manière qu'on peut le dire pour certaines races, entre guillemets, alors qu'en fait, ce sont des métiers qui nécessitent autant de qualité. Mais comme on considère qu'elles sont naturelles chez certains peuples ou chez certains pays, elles ne vont pas être considérées dans les fiches de poste et pas rémunérées. Je vais prendre encore un autre parallèle. Quand on considère qu'une femme hôtesse d'accueil, secrétaire, puéricultrice, etc., que ce sont des petits métiers qui ne doivent pas être valorisés, c'est parce qu'on considère que c'est naturel d'être patient, doux, résistant au bruit, souriant, aimable, poli, comme on dit en anglais, multitasking, c'est-à-dire faire plusieurs choses à la fois. C'est tout autant sexiste, donc tout autant raciste, c'est le même système de domination que de considérer que les Chinois ont moins besoin de sommeil, que les Indiens ont des petits doigts minutieux et peuvent faire de la petite couture. En fait, c'est exactement le même système de excusez-moi pour les parallèles, de racisme. Et en fait, la sociologie du travail étudie tout ça, essaye de rétablir ces inégalités. Excusez-moi pour les explications.
Non, mais justement, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, ce que vous venez d'évoquer sont des propos choquants, bien entendu, parce que nous n'en avons pas l'habitude. Donc forcément, ils nous interpellent. Et finalement, faire le parallèle avec la considération de la femme, on se dit, finalement, c'est la même chose. Mais alors, pourquoi ça ne nous choque pas quand ça se passe avec la femme, finalement? Parce que les propos que vous avez tenus là, bon, on s'en est amusé parce que on tombe dans des clichés pas possibles, mais ils sont juste scandaleux si on les prononçait au premier degré, bien entendu. Par contre, on voit bien le lien qu'il y a entre les propos que vous avez tenus et puis le lien du sexisme. Par contre, avec le sexisme, ça nous pose moins de problèmes. Mais moins de problèmes aux femmes également. C'est pas parce que je suis un homme qui parle que ça pose moins de problèmes. Ça pose moins de problèmes aussi aux femmes.
C'est tellement ancré en fait que qu'on voit même plus où est le problème. Enfin, ça me rappelle une pub qui passe en ce moment, une pub pour des serviettes hygiéniques. On demande à des petites filles, je la trouve magnifique cette pub. On demande à des petites filles, c'est quoi courir comme une fille? Donc elle dit toutes des choses comme c'est courir, je sais plus ce qu'elles disent, au ralenti. Enfin, que des choses péjoratives. Et à la fin, il y a une petite fille qui dit c'est courir avec force, c'est être forte. Et là, on voit en fait où est le problème. Et forcément, moi-même, on dit courir comme fille, c'est courir comme ça. Enfin, courir comme une.
et cours-tu réellement comme ça?
Non, pas du tout. Enfin, je sais pas courir pour info,
je
mais.
Je crois que j'ai déjà vu courir, c'est comme ça.
Je m'attendais à celle-là. Mais voilà, c'est tellement ancré, c'est tellement devenu
c'est
banal.
Dans les
Que voilà, moi quand on me fait une petite blague, comme disait Sarah Manta, moi quand on me fait une petite blague raciste, ça me fait pas rire, ça m'énerve, même si c'est dit sur le ton de l'humour, il y a toujours une petite part de vérité qui fait que voilà, non, stop, je t'arrête tout de suite, j'ai pas envie de rigoler avec toi. Mais c'est vrai que quand on me fait des blagues sur les femmes, ça passe crème, ça passe, je sens même pas la blague, je rigole, ça passe en fait, et on s'en rend même pas compte qu'en fait c'est aussi ce genre de choses qu'on devrait stopper, nous en tant que femmes surtout en plus.
Alors je vais revenir un peu plus loin dans les échanges. Tout à l'heure, à travers notamment les réflexions des jeunes hommes qui étaient très sexistes. Enfin, là, toutes les réflexions n'étaient pas sexistes, hein, bien entendu, mais en tout cas celles qui étaient particulièrement sexistes. J'ai la sensation qu'en fait, dans la relation à la femme, et là je ne parle pas de relation amoureuse, je parle de la relation humaine, sociale. Finalement, ils ne cherchent pas la relation avec une femme, ils cherchent la relation presque avec une mère. J'ai l'impression que c'est toutes les femmes sont des mères potentielles, enfin sans la filiation directe, mais qu'il y a un côté une femme est une mère et peu importe. J'avais cette sensation là. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut reprendre la parole.
Je pense que tout à l'heure, quand on essayait de mettre un terme sur la définition d'une femme, beaucoup associent la femme à la mère, alors qu'on n'avait pas forcément de définition propre. Donc du coup, quand on peut poser la question à un homme, directement, peut-être après un homme d'un certain âge, il se réfère à la maman. Et puis, juste pour revenir au niveau du micro-trottoir qu'on vient d'écouter sur
les qualités particulières des femmes.
Enfin, moi, je trouve ça quand même assez... C'est fou, quand même. Parce que c'est... On est, en tant que femme, qu'on est la vingtaine, la trentaine, j'ai l'impression qu'on se bat, en fait, quotidiennement. Et que ces stéréotypes sont ancrés là depuis 10 ans, 20 ans, et on a l'impression que ça va encore et encore être présent. Et que la bataille, on a l'impression, on a envie de dire que c'est perdu d'avance, alors qu'il ne faut pas forcément se dire ça. Et que c'est une question... C'est beaucoup une question d'éducation. Tout à l'heure, on parlait des jeux, de la poussette, de la dinette. Tout à l'heure, on parlait du fer ou autre. Déjà, ça commence dès tout petit, en fait, quand on donne un catalogue. Et puis là, je trouve que les catalogues comme celui que Sarah a ramené, c'est excellent parce que là, le catalogue est neutre. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de partie, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de bleu. Un petit garçon, s'il décide d'aller dans la page où il y a des poussettes, on va lui dire « Mais non, mon petit, c'est pas là, c'est là pour toi ». Donc du coup, lui, automatiquement, il va se référer à ces pages-là. Ça, il a le droit, ça, il n'a pas le droit. Et donc du coup, ça, quand on grandit, on garde ces idées-là. Et puis, Et puis quand on tombe aussi, parce que tout à l'heure on disait que la femme était patiente, était peut-être un peu plus minutieuse, on apprend aussi à la femme, à la petite, quand tu tombes, tu peux chouiner, on va te câliner, oh viens là mon bébé, c'est rien. Alors qu'un garçon, on lui apprend à être fort, à se relever, à marcher, c'est pas grave mon garçon, tu n'as rien. Donc du coup déjà, c'est une question d'éducation et que nous, j'ai envie de dire, futurs adultes, futurs parents, pour ceux qui le sont déjà aussi, c'est à nous aussi de communiquer tous ces messages-là à nos enfants pour que ça disparaisse, j'ai envie de dire, au fur et à mesure du temps.
Peut-être que justement, le regard de l'homme sur la femme change quand c'est le père sur sa fille, peut-être justement. Aussi. Au bout d'un moment de se dire, ah ouais, non, mais là, attends, ça change la donne finalement.
Aussi, ouais.
Je pense aussi. Moi, j'aimerais poser une question un peu à tout le monde. Imaginez-vous que demain, l'homme a le rôle de la femme, la femme a le rôle de l'homme.
C'est-à-dire ?
L'homme fait tout ce que la femme fait tout ce que l'homme fait.
Dans le stéréotype,
ménage, cuisine, etc. Et l'homme qui ramène l'argent, qui ramène, etc. Comment vous imaginez ça ? Est-ce que ça vous choquerait ? Est-ce que ça... J'aimerais avoir un peu les avis de tout le monde.
Franchement, ce serait trop top. Non, mais c'est vrai que...
En
rentrant vraiment dans le stéréotype, on va pas se mentir qu'il y a des choses qui nous viennent aussi spontanément. Il y a des choses Enfin, je sais pas, moi, quand je rentre, par exemple, je sais qu'il y en a, par exemple, j'ai déjà discuté avec des gens d'ici qui me disent « Moi, je peux pas me marier avec une fille qui fait pas la cuisine. C'est pas possible. » Moi, j'ai envie de leur dire, mais...
L'estomac, c'est important.
J'ai envie de leur dire, mais t'es stupide, t'es bête. Enfin, j'ai envie de leur caler, mais d'un autre côté, je sais que moi, spontanément, j'irai dans la cuisine. Il y a le fait que, oui, il y a des stéréotypes, mais il y a aussi des choses qui nous viennent instinctivement. Il y a des choses qui viennent naturellement. Donc, oui,
je me permets juste de faire l'entendeur. Est-ce qu'ils viennent instinctivement, c'est-à-dire c'est quelque chose d'inné, ou est-ce qu'ils viennent suite à une éducation ?
Il y a aussi les choses innées. C'est comme on disait tout à l'heure, il y en a qui disaient que les femmes, c'était des mamans. Ben, bien sûr, on l'a, l'instinct maternel, on l'a en nous. Il y a des choses qu'on a en nous, il y a des choses... on peut pas lutter contre ça. Oui, d'accord, on veut l'égalité, mais il y a des choses qu'on a, enfin, selon moi en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des choses qu'on a que l'homme n'a pas. Et des choses que l'homme a, que les femmes n'ont pas. Parce qu'on est fait différemment aussi. Ça, faut pas l'oublier. Mais ça dépend quoi.
Égalité, alors.
Égalité. Il y a égalité et égalité. Enfin, je veux dire. Ah, mais... On peut être égaux, mais on n'est pas obligé d'être pareil non plus. Enfin, je pense qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte.
De toute façon, biologiquement parlant, l'homme et la femme n'est pas pareil.
Voilà.
Ils sont complémentaires. Donc après, voilà. Ce que j'allais dire justement, ils sont pas pareils, mais ils sont complémentaires dans
exactement.
Le sens où.
Exactement. Enfin, je te rejoins sur ce point.
L'égalité, on peut l'avoir. On peut l'avoir que ce soit dans le métier, que ce soit dans même dans le. Là, j'entends.
Là, t'es mort. Ouais.
Je vais me taire parce que là, je pense. Que... Non, mais pour
non,
dire.
Non, voilà, jusqu'au bout.
Il y a une égalité, voilà, qui peut se faire. Après, voilà, c'est dans la société, c'est dans les mœurs, c'est dans la culture, c'est dans la façon d'élever les enfants. C'est plein de trucs, quoi. C'est un tout qui va faire que l'égalité va se créer. Mais après, biologiquement parlant, on n'est pas pareil. Mais ça ne veut pas dire que...
Rattrape-toi bien.
Il a peur, il a chaud.
Rattrape-toi bien,
ça ne veut pas dire que la femme est plus bas que l'homme ou l'homme est plus bas que la femme.
Sarah Manta.
Alors, ce que j'essayais de vous démontrer tout à l'heure avec l'exemple du parallèle entre le système de domination de la race et le système de domination du sexe, c'est justement que de dire qu'on n'est pas pareil à cause de nos différences physiques, c'est aussi inapproprié et inintéressant que de dire qu'un noir et un blanc ne sont pas pareils, ou un péruvien qui fait 1m40 et un suédois qui fait 1m90. Alors oui, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit ? C'est-à-dire qu'on a dit que les peaux sont différentes et tout le reste en fait est vraiment similaire. C'est-à-dire que la seule chose qui distingue les hommes et les femmes, c'est absolument leurs organes reproductifs, et c'est tout. Et donc aussi. pas le cœur, pas les instincts.
Non,
c'est-à-dire.
Je parlais pas du cœur.
Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, c'est-à-dire que c'est la société qui construit tout ce rapport au monde qui va être différent, et que la société, la culture va ensuite naturaliser en le qualifiant de élan spontané, instinct, etc. Et il faut faire attention quand on est sur cette pente-là, de réclamer l'égalité dans la différence et non l'égalité absolue, parce que encore une fois, si on rapporte ça à la question des races ou du nord et du sud et des couleurs de peau, on voit que ça peut être très dangereux comme système. Un système qui dit, vous êtes égaux, nous sommes égaux, mais vous avez votre place. Je pense que quand on est de l'autre côté de la place, on ne voit pas du tout les choses comme ça. Ouais. Si on se dit, tu es jaune, eh bien, nous sommes égaux en droit dans le texte, mais dans la réalité, je pense que tu es plus doué pour conduire des bus que moi, on ne voit pas l'avenir de la même manière. Eh bien, en fait, réclamer l'égalité absolue entre hommes et femmes, c'est-à-dire l'égalité de droit, c'est vraiment penser qu'au-delà des différences entre organes sexuels et reproductifs, il n'y a aucune différence entre hommes et femmes, et que le reste est socialement construit.
C'est ce que je voulais dire.
1-0 pour Samantha.
Je vous propose, à moins qu'il y ait une réaction urgente tout de suite sur ce qui vient de se dire, qu'on s'écoute un morceau de musique, qu'on écoute le dernier micro-trottoir et qu'on poursuive les échanges.
Yes, this is Miss Renee King. I'm from Philadelphia. I'd like you to give me a call on area code 215-222-4209 and I'm calling in reference to the music business. Thank you.
Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Once again, it's another rap bandit feeling that I and I can't stand it. Wanna be down with the day glow. Knocking on my door saying, hey, yo, yo. Knocking on my door saying, hey, yo, yo. I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is. I find it hard enough dealing with my own biz. How they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo, man, I gotta step out top. You wanna call me up? Take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes,
hey, how you doing? Sorry I can't get through, but leave your name and your number and I'll get back to you. Yo, check it. Exit the old style into the new, but nothing's new by being parked by. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his pocket. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dog. But it's not the movie to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I be like, yo, black is claiming a take. Well, I have to show the time is clear, I just make. But the songs created in they shacks so wick, wick, whack. Situations like this, I now hate. They give me smiles, Kool-Aid wide and ass. And with the straightest face, I be like, hell yes, hell, yes, yes. This is a Papa Prince Paul, so I don't go AWOL. But yet I know when they come thinking,
hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave me and your number and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Check it out. Party at the Dragon on Dixon. Haven't been to a jam in quite a while. Big gal, catch up on the latest styles. Piles and piles of them takes by the miles. All I wanna do is cut on the deck. Addition of fear by the mile to the sector. Believer of duty, plug one most thing. And I be like, no, G-Pasta's all producer.
Now woe is me to the third degree. Maze pulls the funny, so I make like the money. Check, but I'm getting used to this bit more abuse, getting raped and giving birth to a tape. Cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, set like a stalker. Make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like Luke's guy. Me, myself, and I go to act daily. And really, do I not? No matter how I dodge, some jackal always nails me. No matter what the plot. And even out on tour, they be like, yo, I gotta get the player back at the hotel. I be like, oh, spell, unveil the numeric code that guards my room and tell them to call me at me. But of course there's no answering machine in my room but a pretty younger girl who I swung on to. And if it rings while we're alone, she'll answer the phone and with the quickness she'll reply like a phone.
Hey, you done did the right thing, dollar, my ring ring, now you're waiting on me. Say, I would love if you sing a tune, the true, instead of fronting on the street. So no problemo, just play your demo and at the end it's breakout time. Please, oh please don't press rewind, cause I'll just lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number
and I'll get back to you. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. I'll give you your name and your number, and we'll get back to you.
Yo, what's up, man? This is Real Master Down. Hey, Posse, man, you know, man. So, you know, you just hook me up, true. You know, I got this fly ninja caught swimming in the fish tank. You know, so I'm rocking, man, you know what I'm saying? But I just need to help. Chris Paul gave me a number, you know, man. You just got to do that for me. Got this fly baseline. Got this fly triple balls in it, man. Just hook me up, man. Just hook that right, man. Call me back at 557-223, all right, man? Just look out, man. Look out for a brother, man.
Alors c'était De La Soul, Ring Ring Ring.
Vous êtes sur Principe Actif
102.4 FM.
Oui, pardon, nous poursuivons cette émission. Oh, ben, on prend notre temps. Nous sommes toujours dans Prise d'Anthème, quatrième émission que nous réalisons en direct, en live et en public de l'espace jeune de la Madeleine. C'est-à-dire, on commence à prendre nos marques, hein, d'ailleurs. Hein.
Exactement, on est en train de, voilà, on met les pieds sur la table, ça y est.
Exactement. Le thème de cette soirée, c'est la place de la femme contemporaine. On s'est rendu compte que ce n'était pas aussi clair qu'on pouvait l'imaginer au démarrage. Nous avons trois invités qui nous éclairent de leur expérience, de leur lumière, de leur parcours, à savoir Ramataba, qui est coordinatrice de projets associatifs. Nous avons Drod Gless, qui est professeur de danse, mais également assistante dans le transport. On va peut-être me représenter ça. En fait, je trouve que ça ressemble pas à un titre assistante en transport. Il manque un mot, non? C'est Dulcinea qui a fait les fiches. Rassurez-moi.
Assistante administrative.
Alors, assistante administrative, pardon, le réalisateur est parti régler des problèmes de câble, on ne vous entendait pas. Assistante administrative, voilà, dans le milieu du transport poids lourd. Et puis, Sarah Manta, qui est déléguée aux droits des femmes, enfin qui est une délégation de la préfecture. Donc, comme on dit d'ailleurs aussi, non, déléguée aux droits des femmes. Je me pose des questions quand c'est fini, hein, vous voyez, c'est déléguée aux droits des femmes et à l'égalité, à la direction départementale de la cohésion sociale, et c'est un service d'État, de la préfecture. Voilà pour nos trois invités. Je vous propose tout de suite qu'on écoute la dernière partie enregistrée, parce qu'en fait, le temps avance et on est en retard, hein, qu'on se le dise. Le dernier micro-trottoir enregistré par notre équipe de choc. Et puis, nous revenons juste derrière pour commenter et puis arriver sur la dernière partie que nous avons déjà entamée de toute façon à travers toute cette émission.
Qu'est-ce que la femme du 21e siècle ?
Je pense que... Je trouve qu'elle a beaucoup de choses à faire à cette époque maintenant. On a de plus en plus besoin d'avoir des femmes qui se révoltent un petit peu. Voilà.
Des révoltes par rapport à quoi ?
Bah, pour être reconnues, parce qu'il y en a encore plein qui ne sont pas reconnues, les femmes.
Moi, je dirais, enfin, j'ai regardé à la télévision les concerts de musique classique qu'ils proposent toujours au moment du premier de l'an. Et il y avait, j'ai regardé deux concerts, l'orchestre de Vienne et la Philharmonie de Berlin. Et dans ces deux orchestres, j'ai vu qu'il y avait à peu près 95% d'hommes et 5% de femmes. Et je pense que les femmes, elles ont encore la place à prendre dans beaucoup d'endroits et elles ont encore beaucoup de boulot. Donc, bon courage, les femmes.
La femme du 21e siècle, c'est une femme qui est engagée, qui a les mêmes possibilités que l'homme, qui doit avoir les mêmes possibilités que l'homme.
Ce n'est plus la même chose, parce qu'avant, les femmes, c'est l'homme qui s'occupe de la femme. Maintenant, là, c'est vice-versa. Ça, oui. C'est entre les deux. Mm-hmm. Vous partagez tout.
Les tâches.
Voilà.
La femme achète peut-être à manger, l'homme paie le loyer. Voilà. Si l'homme ne peut pas payer le loyer, la femme prend le relais, paie le loyer, il fait aussi à manger.
Donc, ici, on est femme,
donc,
homme.
Voilà.
Voilà.
Qu'en Afrique, c'est pas ça. Voilà. En Afrique, on est toujours
c'est l'homme
resté
qui
que
fait
ça.
Tout. En Afrique, c'est l'homme qui fait tout. Mais ici, on est homme, on est femme.
Mais je trouve que c'est bien parce que c'est dans un... En fait, ça nous ouvre la tête, nous, les Africaines, parce que c'est pas les mêmes choses. En Afrique, on nous prend comme les esclaves. Parce que c'est la femme qui doit rester à la maison, s'occuper des enfants, bonne à tout à faire. Mais ici,
on est ouvert.
On a quand même nos droits, de savoir qu'il faut se lever le matin, aller travailler, aider nos maris, aider les enfants, c'est que le mari aussi rapporte. Voilà, on mélange, on fait quelque chose avec. Ben, la femme de... Vous avez dit quoi, là?
Du 21e siècle.
Moi, je trouve que c'est mieux qu'elle travaille.
D'accord.
C'est mieux qu'elle travaille, qu'elle soit autonome, dépendante, d'être pas être... Pas vis-à-vis du mari, hein, même pour la famille, même pour la maman, pour une fille, pour un garçon. On n'attend pas que la maman va donner ou le papa va donner. Enfin, déjà, t'es majeur, cherche du boulot. Pourquoi pas aider aussi la famille, ton père et ta mère qui t'a aidé à élever. Donc, c'est voilà. Ce qu'on attend.
D'accord. Bah, je vous remercie, pour le futur. Merci.
La femme du 21e siècle, c'est la femme qui travaille, hein, qui assume des enfants, qui assume ses problèmes, qui a le droit, ben oui, qui vote, qui est indépendante, qui a sa société, qui est patron, qui est, voilà. C'est ça, la femme du 21e siècle.
Bah c'est maman. Bah, moi, je sais pas, moi. Moi, je sais pas.
C'est bon, nickel.
Merci beaucoup.
Les boîtes, les mini-jupes, tout ça. Elles aiment bien l'argent aussi.
Comment ça, elles aiment bien l'argent?
Bah, elles aiment bien l'argent comparé aux femmes de l'époque. Les femmes de l'époque, elles s'occupaient plus de leur... comment on appelle ça déjà?
Foyer.
De leur foyer. Maintenant, les femmes d'aujourd'hui, elles pensent plus à sortir en boîte. Voilà.
Ok, merci beaucoup.
Franchement, c'est quoi? Oui, ça veut dire les femmes d'aujourd'hui, ce n'est plus comme les femmes d'avant. C'est pas pareil parce que la mentalité est différente. Avec l'évolution du monde, et voilà, effectivement, bon. Et là, actuellement, vraiment, c'est un peu dur d'être une femme. Hein.
Pourquoi?
Parce que, primo, de gérer la famille, participer au quotidien, bon, être à la disposition, à l'écoute de son mari, c'est ça qui manque actuellement.
Femme, comme c'est la mode, la femme d'influence, femme indépendante. Voilà, c'est ça la femme du 21e siècle, on va dire. Indépendante.
Ah, la femme d'aujourd'hui, c'est la chanteuse, là, l'américaine. Là. Comment elle s'appelle là?
Qui?
Là, Nicki Minaj, je sais pas quoi. Là. Ah. Ils veulent tous ressembler à elle, ouais. C'est vrai ou pas?
Ah, ouais.
C'est vrai, hein?
D'accord. Et la troisième, c'est qu'est-ce que la femme du 21e siècle?
Oh, une femme moderne et adaptée à son temps.
Du 21e siècle? Ah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les dépenses. Ah, elle dépense trop, la femme du 21e siècle.
Oh, c'est une femme travailleuse, hein, par rapport aux années précédentes. La femme du 21e siècle, c'est une femme qui travaille, qui est aussi pour la plupart indépendante. Au jour d'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus indépendantes. Elles travaillent, elles s'assument toutes seules. Contrairement aux années précédentes, hein, où les femmes ne travaillaient pas, mais maintenant, il y a du changement.
Oh là là. Bah, c'est une femme indépendante, une femme qui a besoin de sa liberté, une femme qui a besoin d'aller travailler. C'est pas comme, les années passées ou comme nos mères ou les personnes qui nous ont éduquées, dans le sens où la femme de maintenant, elle a besoin de faire quelque chose. Elle a besoin de faire quelque chose de sa vie, avoir un objectif, besoin de, d'évoluer tout simplement. Pas rester cloîtré à la maison et éduquer les enfants, entre guillemets.
J'aime bien cette notion de « elle a besoin d'avoir des objectifs et de s'épanouir voilà. ». Je crois que c'est pas mal de terminer, parce qu'on a entendu beaucoup de propos assez limites quand même celui entre deux là, surtout le pire c'était les qualités spécifiquement féminines, c'était une question piège de toute façon hein. mais voilà, oui, j'aimais bien cette fin sur elle a besoin d'avoir des objectifs, sous-entendu de s'épanouir, bien entendu, d'où le cinéma. Oui,
moi j'aimerais demander l'avis de Saramanta, parce que je l'ai vu plusieurs fois faire les gros yeux et être scandalisée par les réponses. Alors notamment celle du jeune homme qui disait que les femmes d'aujourd'hui c'est boîte et mini-jupe. Qu'est-ce que tu penses
et Nicki Minaj.
Et Nicki Minaj également. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à en dire. On peut constater qu'aujourd'hui il y a un certain courant qu'on croit être un mouvement un peu d'émancipation des nouvelles jeunes filles, jeunes femmes, en étant extraverties, en assumant son corps avec des tenues très, très raccourcies, etc., en réclamant son droit à la consommation, y compris son droit à la consommation sexuelle, je ne crois pas vraiment que l'égalité passe forcément par là. Peut-être qu'en fait, ces filles prennent, peut-être que c'est la dernière génération qui prend ce chemin-là en étant en prenant le contre-pied de l'autre génération, c'est-à-dire peut-être la mienne, qui réclamait peut-être plus l'égalité par le travail au détriment de l'égalité par ce qu'on appellerait la féminité. Donc en fait on est encore dans les stéréotypes, parce que qu'est-ce que c'est que la féminité? C'est pas avoir des bijoux, des jupes, etc. Donc j'ai l'impression que la génération actuelle retourne plus à des stéréotypes en faisant semblant de les assumer comme une force féminine. En fait, pour moi, avoir une force féminine, c'est pas vraiment ça non plus l'égalité. Il faut se faire respecter en tant que femme, mais pas mettre en avant ces adjectifs-là ou ces qualités-là pour se faire respecter. Donc je pense pas que... en fait, pour le dire autrement, on entend souvent cette question, oui, est-ce que Beyoncé est féministe? Bon, bah, en fait, Beyoncé porte un discours féministe, mais elle véhicule aussi des stéréotypes ultra-sexistes. Donc on est vraiment dans l'ambivalence, c'est-à-dire que, oui, dans le texte de ses chansons, mais encore faudrait-il arriver à savoir qui les écoute, qui comprend l'anglais, et même dans ceux qui comprennent l'anglais aux États-Unis, qui vraiment percutent sur ces textes, elle dit « la bague, c'est moi qui me l'achète, la voiture que je conduis, c'est moi qui me l'achète, la maison dans laquelle j'habite, c'est moi qui me l'achète ». Donc là, on est sur un discours féministe qui revendique l'égalité, et on ne peut que souhaiter ça aux petites filles, c'est sûr. Donc ça passe par l'autonomie face aux hommes. Ce que ça implique, et ça rejoint, pardon, la réponse à votre question, pour moi, la femme du XXIe siècle, bah, c'est celle qui se met en couple par amour et pas par nécessité. Et Karl Marx disait le mariage, c'est en fait un voile d'intérêt économique qui recouvre une illusion de sentiment. Enfin, il le disait de cette manière-là, en fait. C'est-à-dire que, en fait, le mariage, le foyer, c'était une mini-entreprise, c'était une unité économique recouvert par des intérêts vraiment matériels et contingents. Ce qui se comprend bien dans la société de l'époque, puisqu'on s'émancipait de la famille parentale en passant à la famille, le couple avec le mari. Il n'y avait pas de case de transition comme nous, on peut l'avoir. Donc la fille du 21e siècle, c'est en fait celle qui a accès via la liberté à la notion d'amour. Chose qu'on ne pouvait pas faire à la génération de nos grands-parents, je dirais. Alors, pour revenir à la question de Beyoncé, oui, c'est posséder ces choses. Donc elle porte un discours féministe. Après, être dans les stéréotypes physiques, mettre en avant ses attributs en disant « je ne dérange pas parce que je peux me montrer comme ça en tant que femme », c'est un petit peu délicat de dire « est-ce que c'est ça, s'assumer en tant que femme ?» Bah, pas forcément, voilà ce que je dirais. Et puis, dernière petite remarque sur le micro-trottoir qui était très intéressant, on confond vraiment à tort... être salarié et travailler. Alors, j'ai les cheveux qui se dressaient sur la tête quand j'entendais les femmes d'avant ne travaillaient pas. Non, les femmes d'avant, comme vous le disiez pour les Africaines, étaient en fait littéralement des esclaves et elles travaillaient comme maintenant, sauf qu'en fait, elles n'étaient juste pas salariées. Elles travaillaient dans la sphère domestique, donc gratuitement. Voilà.
Pour en revenir à ce que disait Sarah Manta sur le côté... quand elle disait que la famille, c'était une mini-entreprise, c'était un peu ça. Je reviens sur ce qu'a dit l'un des jeunes hommes sur le micro-trottoir, qui disait que les femmes, aujourd'hui, elles aiment trop l'argent. Elles veulent se marier à un homme pour l'argent, elles sont matérialistes. Avant, ça ne dérangeait pas, hein, parce qu'on ne va pas se mentir. Avant, une femme, un homme, donnait sa fille à marier à un homme qui pouvait l'assumer financièrement. Donc ça ne dérangeait pas avant. À partir du moment où cet homme-là avait été dans une catégorie sociale, on va dire, un peu plus élevée, on voulait marier sa fille à cet homme-là parce qu'on savait qu'il pouvait l'assumer. Aujourd'hui, si une femme cherche à se marier avec un homme qui peut l'assumer financièrement, ça dérange. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les femmes veulent être plus indépendantes. Elles ont leur indépendance financière, elles ont leur indépendance en tout. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est ça qui dérange un peu parce que l'image de la femme change de celle de la femme d'avant parce qu'on la mettait dans un moule, on lui disait... Toi, à partir d'un certain âge, on va te marier. Tu vas te marier avec tel homme, tu ne vas pas décider qui tu vas épouser. Lui, il peut t'assumer financièrement. Le petit garçon qui est au coin de rue là-bas, qui va à l'école avec toi, ça ne sert à rien, il ne pense même pas. Il n'a pas d'argent. Donc tu vas te marier avec lui. Il a beau avoir 25 ans plus que toi, c'est pas grave. Il peut t'assumer financièrement, vas-y. Aujourd'hui, si une fille décide de se dire « Bon, bah, je vais pas prendre le garçon qui est là-bas derrière, qui m'aime depuis qu'on est au lycée. Je vais prendre l'autre là-bas parce qu'il est bien, il est cadre dans une entreprise super bien payée. » Tout le monde va se dire quoi ?« Ah, elle est matérialiste. Bon, elle, faut pas la calculer. La prenez pas. C'est une michto. Voilà, c'est une michto. » Alors qu'avant, ça ne dérangeait pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça dérange parce qu'on a évolué.
Oh, c'est une michto. Une femme matérialiste.
Voilà, c'est ça.
Très, très matérialiste.
Merci pour la définition.
Sur ces échanges, ça nous amène quand même... Enfin, j'ai envie de moi de conclure cette émission. Pas de la conclure là-dessus, mais en tout cas d'aborder une thème... Non, bah, Abdoulaye.
J'avais un truc à dire pour répondre à Edith. Moi, je suis...
Ouh là là.
Moi, j'ai peur. Tu vois, je suis prof, donc tous les jours, je suis confronté à des élèves. Maintenant, j'ai envie de dire un truc, c'est que... Franchement, il y a un gros problème de génération. Mmh. Parce qu'il faut le dire clairement, la génération qui va arriver, elle est foutue. Ouais. Je vous le dis clairement. Parce que moi, j'ai des élèves, je vois tous les jours ce qu'ils disent. Pour eux, c'est argent. En tout cas, pour les garçons, c'est argent. Argent propre ou sale, c'est argent, argent, argent. Voilà, pour les filles, c'est les filles en voix américaine dans les clips, etc. C'est ça, c'est voiture. Je vais me marier avec un gars qui a de l'argent. Il va m'assumer, il va m'acheter une maison, etc. C'est que ça, que ça, que ça. Donc là, il y a un gros problème des générations. Nous, on est dans une génération qui, voilà, on cogite un peu, etc. Mais la génération qui arrive, honnêtement, ça va être très, très, très difficile à les remettre dans le droit chemin, entre guillemets, quoi. Je vous le dis clairement.
Sans avoir de réponse, je me pose la question de savoir est-ce que c'est une question d'âge ou de génération. Est-ce que c'est la question de l'âge de ces
enfants
qui
vivent
dans une société est-ce que finalement, ces jeunes-là, qui sont collégiens, non ?
Oui, collégiens.
Voilà,
collégiens.
Qui sont collégiens, ouais. Est-ce que quand ils seront, je sais pas, quand ils auront 20 ans, c'est le même mode de raisonnement ? Est-ce qu'ils n'auront pas grandi, pris de la maturité et révisé leur façon de penser ?
Après, j'ai envie de minimiser la chose dans le sens où, dans ces classes aussi, il y a aussi des jeunes filles ou des jeunes garçons, voilà, qui ont quand même la tête sur les épaules, qui savent ce qu'ils veulent, etc. Mais après, voilà, je généralise beaucoup. Après, en tout cas, c'est par rapport à ce que je vois maintenant. Si, honnêtement, ils ne changent pas leur mentalité ou autre, ça va être comme ça. Même jusqu'à 30 ans, ils vont penser comme ça. Faut le dire clairement. Parce qu'ils sont... Après, c'est pas vraiment leur faute. On peut pas vraiment leur voir parce que c'est comme ça. Ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ce qu'ils voient à la télé, les clips, etc. Ils s'identifient à ça, en fait. C'est ça, le gros problème.
Alors, pour faire le parallèle, moi, mes années collège, c'était pas les années où j'étais le plus cool, notamment avec les filles, hein, par exemple, pour être tout à fait clair. Et je suis bien content d'avoir grandi, pris de la maturité et de l'expérience de vie, tout simplement. J'ai même envie de dire, ces années collège, pour revenir au sujet là, qui nous concerne de la place de la femme, mais sur d'autres sujets sûrement également, c'est pas quand même les années où j'ai été le plus cool avec la gente féminine. Hein. Quand même. Parce que tout simplement, je ne m'étais pas trouvé moi-même. Hein, et donc, ouais, c'est tellement plus facile d'appuyer sur la différence de l'autre quand on ne s'est pas trouvé soi-même. Mais je n'étais pas le seul. Hein, tous les copains étaient dans le même esprit. C'était pour peut-être nuancer.
Ils se sont trouvés maintenant.
Le propos.
Ouais, il y a une grosse différence entre ta génération et celle que.
Ramata, merci de le souligner. Ce n'est pas très délicat.
Non, pardon.
Moi, je voulais juste rebondir sur ce que Abdoulaye a dit au niveau de la génération de maintenant. Après, je ne sais pas les différences entre génération de maintenant, avant et futur. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à la télévision, les clips qu'on voit où les femmes sont vêtues avec le strict minimum, j'ai envie de dire. Donc, du coup, et tout ce qui est télé-réalité, aujourd'hui, les jeunes se réfèrent énormément à ça. Donc après, c'est à nous, peut-être comme je dis, génération d'avant, où on n'a pas vraiment connu tout ça et qu'on est un peu plus terre à terre. La vraie vie, c'est pas comme ça, mon coco. C'est pas que tu vas faire une émission, tu vas gagner 10 000 euros et puis qu'après, c'est fini. Donc du coup, c'est à nous aussi d'être garant, de protéger, j'ai envie de dire, nos petits frères, nos petites sœurs ou nos voisins, nos voisines par rapport à tout ce qu'on voit à la télé.
Bayal.
Ouais, moi, j'avais une question pour toutes les femmes ici présentes. On voit que dans la politique ou même dans le monde culturel, que la femme a pris une place importante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour vous, vous pensez que tout ça c'est éphémère ou que ça va perdurer ?
Là, on arrive.
On est là. Ouais, je pense. Et toi, Dulce, tu veux pas répondre, Dulcinea ?
Moi, je vais te répondre par une autre question. Qu'est-ce qu'une femme aujourd'hui ne peut pas faire qu'un homme fait ? Dis-moi.
Rien.
Rien. On peut tout faire. Sauf qu'en fait, c'est juste les mentalités qui nous rabaissent tout le temps. On peut tout faire, les filles. Franchement,
c'est vrai, c'est vrai.
On
c'est
peut
ce que je disais
tout faire.
Pour moi, la femme,
c'est
du
juste qu'on nous rabaisse tout le temps, constamment, que ce soit dans la vie tous les jours, que ce soit dans le sport, le basket,
non, vous
du basket. On a des mains comme vous.
Oui, mais vous rabaissez vous-même aussi des fois.
Des fois, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que toute notre vie, on a attendu toujours les mêmes choses. C'est tout bête. C'est comme on en a parlé ici dans des plateaux radio. On est ici, on est au quartier. Bah, on nous répète tout le temps que oui, bah, il y a des différences quand vous arrivez au lycée. On met vos dossiers en dessous. Vous inquiétez pas. Vous êtes des parias. Mais bien sûr, c'est des choses qu'on nous ancre dans la tête et donc on les ressort automatiquement. Oui, je suis d'accord avec toi. On a entendu dans les micro-trottoirs, il y a des femmes qui se rabaissent malheureusement. Mais je te le dis, et je pense que vous le savez de toute façon, à cette heure-ci, on peut faire tout ce que vous faites. On a des pieds, on a des mains. Vous pouvez pas faire ce qu'on fait parce que nous, on a un autre truc entre les jambes. Mais tout ça pour dire que, voilà, on est aussi capable que vous.
Égalité, non ?
Ouais, on est égaux en gros, mais voilà, tout ce qui fait qu'en fait, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Tout ce qui fait qu'on peut pas faire ce que vous faites, c'est vous qui nous le mettez.
Non, mais c'est ce que je disais à Baya tout à l'heure. Pour moi, la femme du 21e siècle, c'est celle qui est petite de taille et qui roule avec un gros 4x4.
Et
ça veut tout dire.
Il a bien conclu. Bravo.
Et ça veut tout dire.
Oui. Non, une prise de micro, je veux que vous
ayez... Non, c'était pour dire... Bah, pour moi, les femmes, elles ne se rabaissent pas du tout. Moi, je suis très, très contente. Non, tout ce qu'elles disent, même moi, je fais le ménage, je fais tout. Ça ne me dérange pas. Non, c'est la vérité. C'est très valorisant pour moi, pour ma part. Ma mère, elle a fait ça toute sa vie. Je ne vais pas dire qu'elle s'est rabaissée. Non. Moi, je la respecte. Je respecte tout ce qu'elle a fait, bien que mon père ait tout fait. Il a travaillé, c'était dur, etc. Mais ma mère, c'est encore pire. Moi, j'ai 7 frères et sœurs. Elle s'est occupée de 7 frères et sœurs. On lui a fait la misère. Faut dire la vérité, elle a été très, très tolérante. Jusqu'à aujourd'hui, bon, il y a des parents qui en perdent leurs cheveux. Faut dire la vérité. Leurs enfants leur font la misère. La femme, elle est forte. Faut dire la vérité. C'est tout. Et c'est très, très valorisant. Il n'y a rien qui... Oui, on est rabaissé par les hommes. Je regardais la politique avec mon père le mercredi à 14h sur la 3. Oui, il y en a même un, je me souviens, qui avait dit « La place des femmes, c'est dans la cuisine. Vous n'avez rien à faire ici. » Non, je suis désolée. Mais un jour, ça arrivera. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, peut-être dans un millénaire, la femme sera à la place de l'homme.
Non, mais ça arrive déjà. Tu vois des ministres femmes, tu vois des femmes qui se présentent à l'élection présidentielle.
C'est dur, il faut dire la vérité. C'est un grand combat. Vous n'avez rien à faire.
Sinon,
faut dire la vérité, vous n'avez rien à faire.
Sinon, je sais
la femme, elle se bat.
T'es célibataire, non? Franchement, là, ce que t'as dit, là, ça m'a touché.
Non, mais on voit beaucoup de changements. C'est vrai qu'on voit beaucoup de changements. Donc, ça arrive, c'est qu'il y a du progrès.
Ouais, mais c'est dur. Hein.
C'est vrai, ça peut pas se faire du jour au lendemain.
Les changements,
mais
ils sont très, très minimes. Oui, ça se fera pas du jour au lendemain. C'est comme le droit de vote pour la femme. Ça a été dur, mais elles l'ont eu. C'est ça. On va se battre. Même ça, je sais qu'on aura du mal à l'avoir, mais je sais qu'on va l'avoir. Moi, j'ai confiance en femmes. On est très, très intelligentes, mais c'est la vérité. Je fais beaucoup de choses que mes frères ne savent pas faire. Il y a des branchements à la télé que moi, je sais faire. Par exemple, en électricité, ils ne savent pas faire. Même changer un plomb, ils ont du mal. Moi, je sais le faire. Au jour d'aujourd'hui, je fais ce qu'un homme ne... Non, ce que certains hommes ne savent pas faire.
J'ai une question pour toi. Est-ce que quand tu étais petite, tu jouais aux voitures ?
Oui, j'ai joué à la voiture. Moi, personnellement, quand le catalogue arrivait, il y avait un côté rose, un côté bleu. Je regardais les deux. Mais par contre, je me penchais plus vers le côté des hommes. Je voulais faire ce que les hommes faisaient. Parce que chez moi, c'était la fille fait ça, l'homme fait ça. Moi, je voulais être un homme. Je te dis la vérité. Oui, et... D'autant plus que j'avais beaucoup de frères. Mais le truc, c'est que moi, je voulais être un petit garçon. Je voyais les garçons, ils ont tout. Ils font rien. Moi, je devais faire la vaisselle. Je devais faire, voilà, le ménage. Je devais tout faire. Et je voulais être comme mes frères. Et j'ai même demandé à mes parents à un certain âge, pourquoi je ne suis pas un garçon ? C'est... Pourquoi vous n'avez pas décidé de faire un garçon ? Moi, je suis arrivée, je suis une fille.
Pas, hein.
C'est vrai, je sais. Mais je ne savais pas à l'époque. On ne connaissait pas tout ça. Oui, aujourd'hui, les enfants de 10 ans le savent. Moi, je ne savais pas. Je ne connaissais pas tout ça.
Jessica, ton discours m'a donné des frissons. Franchement, quand tu veux. J'avais posé cette question-là parce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est vrai,
que nous-mêmes, on fait pas les choses bien quelque part. Parce que, par exemple, là, Noël vient de passer, on offre des cadeaux. Et puis, par exemple, aux filles, on va pas offrir deux voitures. Aux garçons, on n'offrira pas une dinette. Alors, c'est vrai que ça commence là. Ça commence là.
Je crois que ça commence même avant. Je me permets d'être peut-être un petit peu dur là pour le coup et défendre une idée sur laquelle on a déjà échangé avec Dulcinea d'ailleurs. Quand nous faisons les émissions ici, et nous en sommes loin d'être sur la première, qui est derrière le comptoir à faire les croque-monsieur, les
c'est
salades,
vrai. Des femmes.
C'est ramener vrai. Les verres à boire.
C'est
pourtant un espace jeune qui prend plaisir à recevoir des débats comme on fait aujourd'hui autour de la place de la femme, dont les animateurs, dont les jeunes qui fréquentent la structure tiennent un discours non sexiste officiellement. Mais au quotidien, qui est derrière le comptoir et je le dis en toute amicalité parce que je viens très régulièrement et à chaque fois.
C'est la femme.
Et à chaque fois, ce sont de jeunes filles qui sont derrière le comptoir. Alors, effectivement, tu faisais remarquer, Pierre, nous-mêmes, offrons-nous des voitures à nos enfants, à nos petites filles, faisons-nous le truc. Mais même au quotidien, dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien professionnel, personnel, partout, est-ce que finalement, il n'y a pas aussi des choses à regarder, à se mettre en miroir, hein, tout simplement.
Ouais, regardez-vous dans une glace.
Je me permets, c'est un caillou qui est jeté dans aucune cour, parce que dans la mienne, on pourrait sûrement en jeter tout autant, hein, bien entendu, mais c'est ces petits détails-là. C'était ces détails de la vie quotidienne, finalement. On parle de grandes avancées, le droit de vote, le droit de libre disposition de son corps. Ça, ce sont de grandes avancées historiques, celles qui sont marquées dans l'histoire de France, presque. Hein. C'est de grandes avancées. Mais finalement, les blagues sexistes qu'on évoquait tout à l'heure, qui font rire même les femmes, les lieux où on va, où les places sont très spécifiquement sexuées, voilà, derrière le comptoir, à préparer les croque-monsieur ou autre truc, ce sont à chaque fois de jeunes femmes qui sont là. C'est... Finalement, est-ce que le combat de demain, c'est pas les grandes avancées légales, mais le quotidien et la petite phrase?
Si, je pense c'est que
pas,
c'est
hein,
ça.
Je dis ça,
moi, je pense que c'est ça, et c'est ça le plus dur, parce qu'on est né comme ça. Enfin, on est habitué à ce quotidien-là.
Pour l'avenir, je pense qu'il faut vraiment que la maîtrise de la contraception et de la sexualité se fasse à deux, ne repose pas sur la femme, puisqu'en fait, c'est ce par quoi on continue de se distinguer de l'humanité avec un grand H, étant souvent défini par l'homme avec un grand H. La contraception et puis ensuite la répartition du travail domestique qui va impacter radicalement toutes les autres sphères de la vie, donc politique, culture, sport, milieu amical, etc. Et quand on parle de petits gestes au quotidien, je suis vraiment d'accord avec toi, quand on observe qui prend, je vais prendre dans mon service CRTT, qui prend son mercredi après-midi ou son vendredi après-midi, c'est frappant. Donc ça, ce sont des décisions qu'on prend souvent en couple. Les femmes ne prennent pas ces décisions avec un couteau sous la gorge. Hein. Je veux dire, c'est le choix d'un calcul financier, d'un calcul à l'amiable, etc. C'est sur ce genre de choses que, je pense, on a une marge de progression. Je voulais dire encore deux choses, si je peux.
Allez-y, je vous en prie, il nous reste deux minutes hein, et après on conclut.
Je voulais juste dire que la société de consommation... On a parlé des jeux... en disant qu'il y avait peut-être une petite amélioration sur les chariots, les dinettes, etc. Malgré tout, contrairement à ça, je dirais que la société de consommation a tendance à plus sexuer ou genrer les produits. Et je vais prendre un exemple. Si vous allez dans les magasins de sport comme Decathlon ou GoSport, c'est quasiment mission impossible, comparé à il y a 10 ans, 20 ans, de trouver des objets qui ne sont des outils pour faire du sport, comme maillot de bain, accessoires, genouillères, casques, coudières, enfin, tout ce qui sert à faire du sport, qui ne soit pas accessoirisé femme ou accessoirisé homme, fille ou garçon. Ce qui fait qu'à l'intérieur d'une famille et d'une fratrie, c'est fait pour vendre plus. Eh bien, le petit frère va se rouler par terre. Si vous devez lui refiler un casque de vélo ou des genouillères pour faire des rollers, qui va être rose et qui a appartenu à la sœur. Donc, les parents rachètent. Et c'est ainsi de suite, de la même manière entre couple, fille, garçon. Des tenues, un legging pour faire du vélo ou de la course, ou que ce soit de la gymnastique pour femmes, ou je ne sais quel sport pour femmes, ce n'est ni plus ni moins qu'un pantalon. Et bien, en fait, la société de consommation a tout modifié. Je veux dire, une encolure de t-shirt pour homme, c'est différent d'une encolure de t-shirt pour femme. Ce qui fait que spontanément, je veux dire, la petite encolure fine, éventuellement petit V léger, petit liseré doré, etc. Je veux dire, aucun homme ne voudra mettre ça. Donc, en fait, il faut faire attention à l'idée que, en fait, c'est pour vendre, faire vendre plus, que de plus en plus souvent, on est dans une binarité. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que la grande révolution, je pense, et l'État met aussi l'accent de plus en plus là-dessus, c'est que les hommes ont intérêt aussi à combattre le sexisme, parce que les inégalités pèsent aussi sur vous. Dans le sens où tous les clichés dont vous parliez, en disant les films de maintenant, elles aiment l'argent, elles aiment être entretenues, ou bien au contraire, elles ne nous laissent pas faire la cuisine. Enfin, on a les deux extrêmes. Tout ça, ce sont des choses qui finalement pèsent sur votre future vie de couple, peut-être même sur vos responsabilités familiales. Donc en fait, je crois que le train de l'égalité, hommes et femmes ont intérêt à le prendre, tout simplement.
Même étant jeune, hein, quand on va en boîte de nuit et que les filles rentrent gratuitement...
Voilà. Non, mais voilà, non, mais c'est ça.
Là, je demande l'égalité. Là.
Voilà, moi, je la réclame aussi, mais pas pour les maillots de bain. Essayez, messieurs, de nager avec un maillot de bain de femme. Vous allez voir, c'est pas très pratique, tout de même. Il y a une histoire de coupe au bout d'un moment. Hein. Avant de conclure cette émission, je souhaitais donner la parole à Abdoulaye.
J'ai une conclusion.
T'as une conclusion, la tienne.
Pour finir justement cette soirée en beauté. Et je dirais, la place de l'homme et la place de la femme dans ce monde, je dirais que. La femme est la fondation de la maison et l'homme est le toit. Merci, merci, merci.
C'était le philosophe Gakou.
Eh bien merci Abdoulaye, je vais la laisser, on va la laisser, on ne touche plus à rien dans l'émission, on la laisse comme ça, telle qu'elle. Merci à toi pour cette émission.
Je vous en prie, je vous en prie.
C'était le quatrième numéro de cette émission Prise d'Anthème, émission de débat, d'échange, de tout ce qui s'y passe de toute façon, parce qu'on ne maîtrise pas grand chose, qu'on se le dise. Hein. On prépare un tas de déroulés, on prépare un tas de choses et puis il se passe ce qui doit se passer. En tout cas, voilà, c'était sur le thème de la place de la femme contemporaine. Nous remercions nos invités d'avoir échangé, témoigné, enrichi nos échanges. Je rappelle que nous étions avec Ramata Abba, coordinatrice de projet associatif. Nous étions avec Drode Gless, professeur de danse et assistante administrative dans le transport poids lourd. Saramanta, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité, à la direction départementale de la cohésion sociale, service de la préfecture. Merci à vous, mesdames, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Je remercie également à celles qui ont participé et à ceux également qui sont venus participer et enrichir cette émission de témoignages et d'échanges pour réaliser cette émission, produire les micro-trottoirs, les reportages, réfléchir aux thèmes, choisir... c'est en live et public, hein, donc on assiste à un tas de choses. Pour préparer, organiser cette émission, nous avions une équipe de choc avec Adélaïde qui est partie tout à l'heure, mais qui a participé au tournage. Sarah qui nous a rendu visite et qui participe et qui fait partie de cette équipe. Avec Dulcinea qui a mené ça de main de maître, hein, on peut le dire, Dulcinea.
Ah bon? Bah merci.
Ben voilà, ben elle s'était occupée de l'intro, tout ça, ce qui met dans l'ambiance, hein, d'ailleurs. Nous avions également dans cette équipe Bayal, Lionel, Pierre et Abdoulaye. Et au final, tout le monde va rentrer dans l'équipe. Pardon ? Je l'ai dit, ne pensez pas que j'oublie. Voilà. Je suis en train de me dire que d'émission en émission, cette équipe s'agrandit. Je rappelle que sur le Facebook de Principe Actif, à votre intention, il y reste encore, je pense, des places de basket à pourvoir si vous le souhaitez. Sarah, si vous vouliez prendre le micro juste pour nous redonner le cadre de ce match de basket, pourquoi, comment, quoi, qu'est-ce ?
s'agit du match Évreux à LM Basket contre Boulazac, mardi 12 janvier, mardi prochain à 20h. Donc il faut arriver pour à partir de 18h30. Il s'agit d'un match spécialement engagé contre le sport sexiste, pour un sport non violent, non sexiste, non homophobe.
Très bien, bah merci à vous pour cette précision. Bien entendu, on terminera là-dessus. Nous avions à la réalisation l'unique, que dis-je, le merveilleux, l'inimitable Deuze.